nous accueillons ce soir dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et nous allons tout juste proclamer l'hymne du séminaire. Nuit et jour, je suis heureux en marchant avec mon Dieu. N'oublions pas que le thème du séminaire, c'est Christ en nous, l'espérant de la gloire. Alors, je crois que si on met ça sur l'écran, ce serait une bonne chose. Nuit et jour, je suis heureux en sol.
Je suis heureux en marchant avec mon Dieu.
Dieu 4.
Car ça ne
nuit et jour,
je suis heureux en marchant avec mon Dieu. Car sa bonne main dirige tous mes pas. Il a transformé mon cœur, m'a donné le vrai bonheur. Car le Saint-Esprit demeure en moi. Encore
De plus,
car le Saint-Esprit demeure en moi.
Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Gloire à Dieu.
Arcamena.
Alléluia.
Alléluia.
Excellent Père, nous te remercions ce soir. Car le Saint-Esprit demeure en nous. Nous voulons prendre conscience de cette réalité divine. Afin que nous puissions marcher dans la victoire. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a non seulement la vie fructueuse, il y a aussi la victoire, il y a la délivrance, et la grâce de Dieu se manifeste abondamment. Soit béni et soit loué ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Le peuple de Dieu dit Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous avons voulu cette année aborder ce thème « Christ en nous, l'espérant de la gloire » qui n'est pas un slogan spirituel. C'est une réalité spirituelle qui est ignorée des gens, des chrétiens et même de beaucoup d'hommes de Dieu. Et si vous cherchez le thème dans les livres en anglais, en français, vous allez trouver rare. Et ceux qui même ont abordé, vraiment l'ont abordé artificiellement. Parce que c'est un thème assez précieux. Il y a deux mystères qui ont été révélés à l'apôtre Paul. Et ce mystère-là, c'est le second mystère qui a été révélé à Paul. La Bible dit que Dieu a une méthode d'approche quand il veut approcher des gens. Dans Deutéronome 29, il dit, les choses cachées sont à lui d'abord. Tout ce qui est caché est à lui. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants afin que nous les mettons en pratique. Pour passer des choses cachées aux choses révélées, il y a quelqu'un, une seule personne qui est habilitée, qu'on appelle le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, dans le livre de Corinthiens, Dieu dit que la sagesse de Dieu, qui est mystérieuse, cachée, était cachée pendant des âges. Et cette sagesse-là, il dit, si les princes de ce monde l'avaient connue, ils n'allaient pas crucifier Christ. Et le premier mystère, c'était le mystère de la croix. Ni Satan, ni les hommes religieux ne pouvaient penser aucunement que Dieu
Kiwenam
allait sauver l'humanité
par
la mort de son fils sur une croix
ignominieuse.
La croix a été inventée par les Grecs, appliquée par les Romains. Les Romains s'en sont appropriés pour faire donc la mort des condamnés. Et sans ce temps convenable, puisque Jésus devait mourir sur une croix, il fallait attendre que quelqu'un, que dans ce monde-là, une nation adopte la croix comme le moyen de détruire les brigands et les voleurs, ceux qui ne sont pas dignes. Mais c'était caché. C'est pourquoi quand Pilate a fait crucifier Jésus, il a mis sur la croix celui-ci est le fils et est le roi des Juifs en trois langues spéciales. Il a mis ça en hébreu, en latin, et en grec. Et ces trois-là représentent le monde entier. Il a mis ça en hébreu, ça veut dire le monde religieux. Le hébreu reprend le monde religieux. Et les Hébreux ont dit qu'il n'est pas possible que leur Messie qu'ils attendaient depuis des années, des millénaires, ce Messie-là vienne mourir misérablement comme un bandit, un voyou sur la croix. Ils ont dit c'est un scandale. Tout ça, ça se trouve dans 1 Corinthiens.
Dans
les Corinthiens, quand les Grecs sont arrivés,
la Grèce,
quand ils ont regardé la croix, ils ont dit mais ça c'est une folie. Quel est le coefficient de corrélation entre le salut des hommes et la mort d'un homme qui est là au milieu alors qu'il n'est pas le seul à mourir sur une croix? Scientifiquement ça n'a aucune valeur. Il y a un monsieur qui est en train de mourir à droite sur une croix, un autre meurt sur une autre croix à gauche, et vous dites que c'est celui du milieu là qui est le sauveur. Quelle est la preuve scientifique que vous pouvez nous donner que parmi ces trois crucifiés là c'est celui du milieu là qui est le sauveur? Ils ont dit vous êtes des fous. Et c'est pourquoi les scientifiques continuent à dire que nous sommes des fous. Troisième élément pour connaître la révélation du mystère. Et beaucoup de chrétiens se convertissent sans connaître ces choses-là. Et c'est pourquoi leur vie chrétienne est maltraitée par l'ennemi. Ce sont les latins qui arrivent. La puissance politique. César qui domine le monde. Quand ils ont regardé la croix, on dit ça c'est le roi des Juifs. Ils ont ri. Ils ont dit non, ce n'est pas un roi, c'est un rebelle. Nous, chez nous, à Rome, on tue les rebelles de cette manière-là. Donc, personne n'a cru à la mort de Christ, la croix, la personne n'a cru. Aujourd'hui, vous en vantez, mais eux, aucun. Je continue, les magistrats sont arrivés à la croix et ils ont rigolé de Jésus. On t'a bien condamné. Les soldats sont arrivés, ils l'ont maltraité. Les femmes sont arrivées, elles ont frappé leur poitrine. Jésus a dit mais pourquoi vous frappez vos poitrines? Vous pleurez sur vous-même et vos enfants? Personne n'a compris ce qui s'est passé à la croix. Pierre n'a pas compris. Les 11 disciples ont dit cela. C'est la défaite de leur patron. Personne, tous ceux qui ont vu la croix, personne n'a compris que Jésus mourait pour leur péché. C'est facile de voir aujourd'hui. Paul vous a dit, si vous êtes là-bas, vous n'allez pas croire. Et Paul n'était pas là-bas. Il n'était même pas converti. Pourquoi je vous parle de révélation? Paul était encore loin. Il était un rebelle et il voulait tuer ces chrétiens-là. Alors je vous pose la question. Qui vous a dit que l'homme du milieu là, c'est lui le sauveur? Je vous pose la question. Puisque la religion niait, les politiciens ont nié, les savants ont nié, les juges ont condamné, les militaires ont crucifié, les femmes ont pleuré, et personne. Qui vous a dit que Jésus là, c'est lui le sauveur? C'est facile aujourd'hui de dire dans la Bible que Jésus est le sauveur.
Et
tous les disciples ont fui. Et tous. Marie regardait son fils. Marie, c'était une maman qui souffrait. Elle ne comprenait pas que son fils là mourait pour ses propres péchés. Elle ne comprenait pas. Et les femmes sont venues autour d'elle pour la consoler. Personne. C'est la révélation.
À
un moment donné, les deux voleurs aussi ont commencé à le critiquer. C'est ça la révélation. Ils l'ont critiqué. Ils l'ont condamné. Si tu es sauveur, si tu dis ce que tu es là, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ils ont commencé à les critiquer.
À
un moment donné, d'une façon spécifique, le voleur de droite s'arrête. Il écoute les paroles que Jésus prononçait. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pardonne leurs péchés car ils ne savent ce qu'ils font. Brusquement, les yeux du voleur de droite s'ouvrent. Il se retourne et regarde son ami là-bas. Il dit: mon frère, tais-toi, je viens d'avoir une révélation. C'est le seul homme sur la terre qui a reconnu que Jésus est le sauveur. Vous prêchez ça facilement aujourd'hui, mais c'est ça le problème. Lisez votre Bible. C'est le seul. Et là, il s'est tourné vers Jésus. Je te reconnais. Souviens-toi de moi quand tu venais dans ton rêve. Jésus n'a pas dit qu'il va aller au paradis aujourd'hui. Tout le monde fait, les prédicateurs prêtent que Jésus a dit que Jésus n'est pas parti au paradis. Jésus dit: en ce jour-là, je te le dis. Il n'a pas dit en ce jour-là parce qu'il y a la virgule là qui est importante. Parce que dans le langage grec, il n'y a pas ces choses-là. Il dit: je te le dis aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je te dis. Il n'a pas dit: je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi. Non, non, non. Il dit: je te le dis aujourd'hui. Hein? Tu seras. Quand Jésus est mort, son corps est parti où? Écoute-moi. Tombeau de Joseph d'Arimathée. Son corps. Qui a prêté son corps. Jésus n'avait rien sur la terre. Il n'a pas de maison. À Capernaum, c'est quelqu'un qui lui a donné une maison. Il n'a pas de moyens de locomotion. C'est l'anneau de quelqu'un. Il n'a pas de tombeau. On lui a prêté un tombeau. Tout a été prêté à Jésus. Il faut comprendre l'évangile. L'évangile, c'est pas aller bourrer sa tête avec des connaissances livresques. C'est une révélation. Tu entends? Son corps est pas dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Et quand Jésus était sur le tombeau, sur la croix, il a remis son esprit à qui? Père, je te remets. Alors, tout homme est composé de trois parties. Son corps dans le tombeau. Son esprit est sur le Père. Son âme est où? Séjour des morts. Dans l'enfer. Pour qui? Toi et moi. Si Jésus n'était pas parti en enfer, il irait en enfer. Regarde,
yes.
Mais personne ce jour-là ne savait ça. Personne. Ni ses disciples. Personne. Personne. 30 ans plus tard, les disciples ont commencé à prêcher déjà. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à prêcher. Ils prêchaient: Jésus est mort, Jésus guérit les malades. Mais il ne pouvait pas donner la doctrine du salut. Il ne pouvait pas donner ces choses-là. Il
ne
pouvait pas comprendre. 30 ans plus tard, un rebelle appelé Saul de Tarse. Un homme rempli de la connaissance livresque de la loi. Il est docteur. Il a étudié tout. Et c'est son étude là qui a fait qu'il était devenu ennemi numéro un de Jésus. Allant à Damas, pour aller arrêter les chrétiens, une rencontre se manifeste à lui. Il tombe à terre. Ensuite, il s'en va. Un chrétien, Ananias, vient poser les mains sur lui. Il est rempli du Saint-Esprit. Quand l'homme se lève, il est transformé. Il nous dit qu'est-ce que la croix.
Il
n'a jamais salué Jésus. Il n'a jamais vu Jésus. Il n'était pas à la croix. Donc c'est une affaire de révélation. C'est pas une affaire d'étude. C'est pourquoi quand les gens. C'est pas une affaire d'étude. Pierre, quand il est parti à Jérusalem pour rencontrer Pierre, quand il a commencé à parler, Pierre dit l'homme là. Où tu as eu tout cela?
Pierre, tu
n'étais même pas parmi nous.
Faudra pas n'attendre sur
toi. Tu étais un ennemi de Jésus.
Faudra Jésus
ben et ouais. C'est toi qui connais Jésus plus que nous.
La foi mais Jésus est ton.
Paul dit je ne connais pas Jésus.
Paul ne pas Jésus.
Je connais Christ.
Ma mi Christ.
Jésus c'est celui qui est venu dans la chair. Christ c'est celui qui a été élevé et qui est en nous.
Christ a venu par avec le béton pour
et la deuxième révélation.
Vénérable,
Paul dit mais si vous avez connu Christ dans la chair, 2 Corinthiens 5, 16. Si vous l'avez connu dans la chair, nous ne le connaissons plus comme cela. Car si quelqu'un est en Christ, il est nouvelle. Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues. C'est comme ça qu'on le connaît. Et Paul dit, ce n'est pas fini. Quand vous le connaissez comme cela, vous devenez le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en vous. Et quand il habite en vous, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est le mystère des mystères. C'est pourquoi il attrape maintenant Colossiens 1.
Colossiens
1. Verset 25 à
27.
Il dit le mystère caché dans tous les âges. Qui n'a pas été révélé à qui que ce soit. Les Abraham ont essayé. Les prophètes ont essayé. Écrit dans 1 Pierre 1. Les prophètes ont essayé. Les Élie ont essayé de comprendre. Les Esaïe ont eu un peu. Mais ils n'ont pas compris. Et quand ils ont commencé à avoir un peu de révélation, Dieu leur dit que ce n'est pas pour eux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, frère? Paul dit le mystère caché là, dans tous les âges, depuis la chute d'Adam, ça m'a été révélé. Les gens ont dit mais Paul, c'est quel mystère? Quel secret? C'est le secret caché. Le premier aspect du secret, c'est que les païens font partie du corps de Christ.
Il y a des bousiers, ça mène à Christ.
Par les Juifs avaient monopolisé ça.
Non.
Dieu m'a révélé que Jésus n'est pas venu pour les Juifs. Il est venu aussi pour les païens. Quand on dit païens, là, on ne parle pas des gens du village. Hein. Païens, c'est tous ceux qui ne sont pas de la race des Juifs. Donc, toi et moi, on est païens.
Voilà.
Ce n'est pas le pauvre vieux du village, là, qu'on appelle païens. Païens, ça veut dire que tu n'es pas de la race des Juifs.
Voilà. Il ne
faut pas aller accuser les pauvres vieux là, ils sont pas des païens.
Bah, nickel, ça serait pas bam la païen, il faut bien la païen.
Voilà. Donc, faut bien comprendre ça. Selon les termes bibliques.
Voilà.
Alors, à ce moment-là, il dit, mais ce mystère-là, qui était caché là, ce mystère a une richesse. Il dit la glorieuse richesse de ce mystère-là, c'est savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'homme connaît son affaire. Il a la révélation. Pierre dit, mais notre frère Paul là, il a tellement de révélations que si on ne prend pas garde, on risque de tordre. Dans le christianisme, il y a chrétien et chrétien. Les gens ne comprennent pas ça. Certains disent que certains sont ceci là, mais ils exagèrent, on n'exagère rien. Il y a chercheurs et chercheurs. Il y a des chercheurs qui cherchent. Ils trouvent comprimé aspirine. Il y a des chercheurs qui sont au-delà. De même qu'il y a des lois naturelles sur la terre. La première loi de la nature, c'est la loi comment on appelle?
Pesanteur ou graphique.
Pesanteur et puis voilà tout ça là, c'est ça.
Voilà.
Hein? Gravitation.
Voilà, boum.
C'est ça qui contrôle la terre, l'atmosphère de la terre. Mais et tant que tu n'as pas la révélation, tu étais dominé par ça. Quand les frères Wright ont découvert qu'il y a une autre loi qui contrôle la première loi. Ils ont dit à leur papa, on va faire voler un objet plus lourd que l'air. Ils ont découvert la loi de la sustentation. Instant, les gens les ont appelés fous. Qu'ils exagèrent. Ils
ne
sont pas des savants. C'est ça dans le christianisme. Il y a des gens qui sont... Il y a plein de choses. Les poulets ont deux ailes.
Non, ça t'a la pire.
Mais tu as déjà vu un poulet voler?
Quand
il voit les choses comme ça.
Mais il a
deux ailes. Non? Il y a des poulets. Après à quoi? Il y a des pigeons. Après à quoi? Il y a des charognards. Après à quoi? Après dans tout ça là, il y a l'aigle royal. L'aigle, c'est ça. Dans chaque chose, les gens, quand tu vois, il n'y a pas d'exagération. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. C'est la révélation qui donne ça. Pendant plus de 5000 ans, l'électricité existait dans le monde. Et le monde était dans les ténèbres. Abraham, le sage, était là.
Abraham,
Dieu lui a confié seulement la foi. Mais il
ne
connaissait pas l'électricité.
Électricité.
Et Moïse est venu.
À Moïse, ouais.
Dieu lui a confié la délivrance à son peuple.
Mais
il vivait dans l'obscurité. Chacun est venu. Les Élie sont venus. C'est le prophète de feu. Malgré ça, il ne connaît pas l'électricité. Chacun est venu. Il a fallu attendre le 19e siècle.
19e siècle là, ouais.
Dieu révèle cela. Quand les scientifiques écrivent leur livre, ils ne disent pas la révélation. C'est Dieu qui a révélé à quelqu'un qu'est-ce que l'électricité. L'électricité, on ne la connaît pas. On ne peut pas dire voilà l'électricité. Non, c'est un principe, une loi. Quand il a découvert ça, maintenant il y a eu les applications qui ont appliqué. Et brusquement, le monde a été révolutionné. Ça, l'électricité est le symbole du Saint-Esprit dans le monde naturel. Dès que l'électricité a été donnée, regarde toutes les applications. Le courant, le téléphone, l'avion, l'ordinateur, rien ne marche. Tout se suit le principe de l'électricité. Tu comprends? C'est la même chose. Alors, Paul nous dit, les anciens là, ils n'ont pas connu le Saint-Esprit dans l'homme. C'était un mystère. Ce mystère-là est pour nous maintenant. Et pour nous, et il faut que nous l'acceptons pour aller de l'avant. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont épuisés, tombent dans la dépression? Un chrétien n'est pas tombé dans la dépression. Je ne comprends pas comment un chrétien peut être dépressif. J'ai cherché, je me suis assis. Bon, je vais devenir dépressif. Bon, je vais comprendre la dépression. Le prince de paix est en moi. Il dit, mais c'est ça le problème. Si tu n'as pas la révélation, c'est des slogans pour toi. C'est des slogans pour toi. Je
ne
comprends pas ça. On dit, ah, mais j'ai des problèmes. Les problèmes ne donnent pas la dépression. La dépression est un problème intérieur. Mon ami, mon frère, écoute-moi. Si ta peau, là, il n'y a pas de plaie, si je prends l'alcool, je viens mettre sur ta peau, ça va faire une fraîcheur. Oui ou non? Mais s'il y a une plaie, dès que je mets l'alcool, ça brûle. Ce n'est pas l'alcool qui est le problème. C'est parce que tu as une plaie qui est le problème. Tu es dépressif parce que tu as un problème intérieur. Tu n'aimes pas les gens. Tu es rancunier parce qu'il y a un problème intérieur. Aucun comprimé ne peut enlever ça. On ne sait pas à quel endroit on va enlever la rancune. Dans ton foie? Dans ton poumon? Hein? On va enlever ça où? C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu vivre en toi. Il est venu vivre en toi. Le Dieu de l'esprit est le Dieu de la science. Il n'y a pas un scientifique aussi parfait que
Jésus-Christ.
Il dominait toutes les lois. Quand il a vu ses disciples en danger, il a pris la loi de la sustentation, il a dominé l'eau, il a commencé à marcher sur l'eau. Il a marché sur l'eau pour aller. C'est ça, mon frère. C'est ça que le Saint-Esprit est venu faire. Beaucoup de chrétiens sont au niveau élémentaire. Mais c'est normal. Mon frère, ma soeur, la première année, quand je suis allé en France, j'ai écrit chez moi à Tougan que le sol là est couvert de glace partout. C'est la glace, tout le sol. Alors que chez moi à Tougan, la glace est dans le frigidaire. Et moi j'écris, j'ai dit, la glace n'est pas dans le frigidaire. Tout le sol là, c'est glace. Ils m'ont, ils m'ont dit, avec mon petit nom à Tougan, Fatoukouma, tu es en France, mais il ne faut pas croire que nous on est bêtes. Tougan Koulouba est glacier. Ouais. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils n'ont pas la révélation. Quand tu dis des choses, ils disent que tu exagères. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils ne peuvent pas comprendre. Moi, je suis dans un pays, je suis entouré de glace. Moi, je te dis ça. Toi, tu dis que la glace, c'est le frigo seulement qui fait glace. Alors, il y a le frigo de Dieu ici. C'est le problème des révélations. C'est le problème des révélations. C'est pas un problème d'étudier et d'être réaliste. Dieu n'est pas réaliste. La foi n'est pas réaliste. La foi n'a jamais été logique. Non. Comment tu vas dire à une femme aujourd'hui, si une femme de 60 ans se présente, si tu es un médecin, on va dire que tu es mon ami, tu es post-ménopausé. Il faut arrêter. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de compas, il n'y a plus de double
chemette. Il ne faut pas aller
une femme de 90 ans. Tout est devenu comme les organes d'un bébé. Une femme de 90 ans. Tous ses organes sont devenus comme les organes d'un bébé. Ou bien Dieu est créateur ou n'est pas créateur. S'il est créateur, Dieu n'est pas un mécanicien. Il faut arrêter de comparer, d'amener votre Dieu là comme un petit plaisantin. Regarde, il y a des choses que nous devons comprendre. Et moi je suis étonné, quand je voyage, je suis étonné. Les gens disent, mon ami, et tu connais Dieu? Pourquoi tu les limites comme ça? Pourquoi tu les limites? Pourquoi tu limites Dieu? Tu peux limiter Dieu? C'est toi qui es limité. Tu es un homme fini. Lui, il est infiniment grand. Les nombres entiers variant de 1 à n, c'est toi. Lui, il est en dehors des bornes. Moins l'infini, plus l'infini.
Comment tu vas mettre
moins l'infini, plus l'infini dans le nombre entier variant de 1 à n? Comment tu vas les mettre? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que quand on limite Dieu parce qu'on ne comprend pas la révélation, on dit que les gens exagèrent. Ils exagèrent quoi, je ne sais pas. C'est normal. Même dans la vie, il y a des gens qui ont fait l'école primaire, ils sont arrêtés au CEP.
Il
y a des gens qui ont fait les secondes. Ils ont fait les BPC.
Secondaire pas BPC.
Il y a des gens qui ont fait les baccalauréats. Il y a des gens qui ont fait des licences. Il y a des gens qui ont fait les masters. Il y a des gens qui ont fait des docteurs. Il y a des gens qui sont agrégés. Alors si l'agrégé vient te dire quelque chose, toi tu es à l'école primaire. Tu dis qu'il exagère. Est-ce qu'il exagère? Je comprends. Quand quelqu'un vient vous dire que Dieu est comme ça, toi, dis que, toi tu es au CP1, tu veux me contredire, moi je suis professeur agrégé Moi je suis professeur titulaire, vous êtes des assistants et des maîtres assistants.
Amen.
Quand chaque année nos agrégés viennent, on les célèbre, oui ou non? Quand les agrégés viennent, on les célèbre, oui ou non? Dans le domaine, on célèbre les agrégés. Dans le domaine spirituel, quand on vous dit que vous êtes agrégé, on ne vous célèbre pas. Si dans le monde, scientifique, il y a des agrégés en sciences éco, agrégés en médecine, ça veut dire qu'ils ont eu ça où? Il y a aussi des professeurs dans les choses spirituelles.
Professeur dans même BMC pour y aller.
Est-ce qu'un professeur agrégé en sciences économiques, il exagère?
Professeur agrégé en sciences économiques, il
exagère. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait qu'accumuler des connaissances pendant des années. Ce qu'il a enseigné, il l'a expérimenté, il a formé des générations. Et on part maintenant lui dire, tu veux être professeur? Viens nous dire, comment tu as tenu les gens. Et quand il va au concours, on lui donne des choses, il reste des heures et des heures, il est assis tout seul. Tout ce qu'il a eu là, tout sort de lui. Tout sort de lui. Et quand il vient présenter, on dit qu'il est arrivé à l'agrégation. Si j'ai accumulé des connaissances spirituelles, si j'ai accumulé des révélations de Dieu, et que je viens vous dire ça, vous dire que spirituellement, j'exagère. J'exagère quoi? Ah, voilà. Si vous voulez être dans la logique, je vous prends dans votre propre logique.
Ouais,
frère. C'est ça le problème des gens.
Le
problème des gens. Un grand scientifique est venu dans une de nos conférences à Lyon. Ce sont qui font les centrales nucléaires. C'est un spécialiste en toutes les choses nucléaires. Là. Un cerveau en France. Un cerveau. Sa femme lui a dit, il y a un Burkinabé qui vient prêcher.
Le Burkinabé n'est pas tout le monde.
Oh, il dit, mais c'est là-bas du cerveau.
Il y a quelqu'un de pécheur là.
Sa femme a dit, non, viens.
Il a fait ou
là. Il est venu, il était assis là-bas.
Alors,
et quand on a commencé, il est assis comme ça.
Jimmy.
Tu vois quoi? Raconte ta vie seulement. Raconte ta vie. Quand j'ai regardé, le Saint-Esprit m'a montré c'est lui là. Il faut prêcher tout sur lui. Quand Dieu a commencé à me révéler, je lui donne une révélation de sa vie. C'est une pointe.
Il y a pointe.
Je tape là-dedans.
Et
je continue. Je continue, je prêche aux autres. Deuxième coup que Dieu me donne, je reviens. Je le regarde lui-même directement. Je tape encore pim. En ce temps-là, il n'est plus comme ça. Il a commencé à faire comme ça. Quand on a fini, ce savant nucléaire de France là, il a couru devant pour
venir.
Il dit, mais vous avez mis ma vie à nu. Ça, c'est du nucléaire divin. J'ai envoyé la bombe de Dieu. Et sa vie a été révélée. Mais c'est ça. C'est ça que je vais vous développer pendant ces 4 jours-là. Tout le secret, c'est la Christ en nous. Christ en nous. Pas Dieu avec nous. On dit quand il venait, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Maintenant, on nous dit Christ en nous. Ça, c'est important que nous comprenions. Christ en nous. Alors, frères et sœurs, j'ai noté quelques éléments afin que je puisse voir. Donc, la première image que tu vas voir, c'est Christ qui vit en moi. Et regarde, quand tu vas voir cette image-là, Christ qui vit en toi, regarde, on ne te voit même pas. Ça, c'est le chrétien. On ne voit que quoi? La gloire de Dieu. Lui-même, on ne le voit pas. Lui-même, il est absorbé. C'est ça le chrétien normal. Le chrétien anormal, là, on voit tout son être, on voit son caractère, on ne voit rien de Dieu là-dedans.
Christ en toi, Christ
en toi
Christ pour
sort et commence à atteindre ceux qui sont autour de toi. Mais ce n'est pas fini. Christ en toi, ce n'est pas ça seulement.
Christ pour parler,
une deuxième image de Christ en toi,
Christ pour parler,
ça se trouve dans 2 Corinthiens 4, 7 en disant que nous sommes un vase de terre contenant le trésor de Dieu. Nous sommes un canari dans lequel se trouve le trésor, le Saint-Esprit. C'est nous le canari là. Et en terre, c'est fragile. Mais ce qui est fort, le Saint-Esprit, aime se lier à ce qui est fragile. C'est ça, c'est ce secret que vous devez comprendre. Dieu ne juge pas votre fragilité ni votre faiblesse. Dieu ne condamne pas ça. Parce que le Saint-Esprit qui est fort là, il vient habiter dans ce vase de terre. Et quand il habite là-bas, comme 2 Corinthiens 4, 7 le dit, il amène la nature divine, donc Galates
5, 22.
Il amène l'amour, la joie, la paix et tout.
La fin.
Il vous coupe 1 Pierre 4.
Dans 1 Pierre, il menace.
Il vous fait devenir participant de la nature divine. Écoutez, frères et
sœurs,
c'est peau fragile là qui contient le Saint-Esprit là. La nature divine se manifeste dans ce
peau
là. C'est ça le christianisme. C'est pas une religion.
Pas d'inwa.
Non. C'est ça le christianisme. Mon frère, ma soeur, quand tu comprends ça, tu sais que tu es faible. Tu sais que tu es imparfait. Mais tu transportes le parfait. Tu transformes celui qui est tout puissant dans ton esprit. Ton esprit et son et le Saint-Esprit sont un. 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Tu deviens le temple de Dieu. Et quel est le but de Dieu? Il veut révéler à ce monde-là, comme il a révélé sa nature par Jésus. Il veut révéler par toi, à tes voisins, à tes collègues de service. Il veut révéler la sagesse infiniment variée de Dieu. Si les chrétiens laissaient la sagesse de Dieu qui était en train de se révéler, on n'allait pas les appeler Merka ou Alléluia. On appelle les gens Merka Alléluia parce qu'ils ne laissent pas la présence de Dieu se manifester. Ils disent des paroles non sages et ils créent des problèmes à tout le monde. Et les gens se montrent et voilà, Alléluia, Alléluia, on fait ça. Regarde Jésus.
Jésus.
Regarde Paul.
Paul.
Les deux transportaient la présence du Seigneur. Partout où ils allaient, ils affectaient leur environnement. Ils changeaient leur environnement. La présence, les fleuves d'eau vive de Dieu coulaient de leur corps et Jean 7, verset
37-38.
C'est pourquoi tant de chrétiens sont frustrés, demandant, courant à gauche, à droite, demandant la prière. La prière ne résout pas le problème. Qu'est-ce que, s'il vous plaît, qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire en vous? Demandez, je vous pose la question. Il est venu faire un tourisme chez vous? Le Saint-Esprit qui a donné la victoire à Jésus là. Le Saint-Esprit qui a fait des exploits et des exploits. Dieu envoie le même Saint-Esprit qui était en Jésus là. Il est en toi. Et
là,
tu es frustré, tu es découragé. Je ne comprends pas ça. Quel est le rôle du Saint-Esprit en toi alors? Réfléchissez un peu. Asseyez-vous et regardez. Si le grand Saint-Esprit, celui qui a ressuscité Jésus de la mort, celui qui l'a enlevé, le Saint-Esprit qui est venu mettre Jésus dans le sein de Marie, cette femme vierge là, le Saint-Esprit est venu mettre cet enfant là, la Bible dit que le même Saint-Esprit est en toi et en moi. Et toi, tu es dans la défaite. Tu n'as pas compris. La prière ne sert pas à ça. Non, 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 non. Premièrement, tu dois découvrir qui est en toi. C'est pourquoi il y a trop de groupes de prières qui prient et les gens sont dans la dépression. Ça ne va pas. C'est difficile de me décourager.
Il y a trop de même sur ça.
J'ai trop de problèmes, mais je me décourage.
Pourquoi?
Tu m'as déjà entendu, j'ai dit à quelqu'un de prier pour moi. Tu m'as déjà entendu que je vais aller pour prier pour quelqu'un. Il y a longtemps, j'ai fini ça. Le Saint-Esprit qui est en moi, je suis conscient qu'il est en moi. Il est tout puissant. Il est glorieux. Il est dit que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, Romains 8, 11, s'il est en vous, il donne la vie à votre corps mortel. Mais tu prends ces passages, tu veux aller prier, je ne comprends pas. Ça me dépasse. Les chrétiens, ils sont en train de pleurer. Ils pleurent pourquoi, je ne sais pas. Ils pleurent pourquoi, je ne sais pas. Le Saint-Esprit en toi. Réfléchissez un peu. Réfléchissez. Regardons frères et sœurs. Regardons frères et sœurs. Je vais te montrer quelque chose. Il faut que tu comprennes un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses tu dois comprendre. Il faut que tu comprennes ces choses-là. Ça, c'est la vie de quelqu'un. Vous qui êtes derrière moi, vous allez regarder ça, c'est la vie de quelqu'un. Sa vie est bariolée de choses bizarres. Sa vie est bariolée de choses bizarres. Alors, mon frère, ma soeur, c'est quelqu'un qui a des problèmes, qui a des difficultés dans sa vie. Bon, si on amplifie, on ne voit pas, mais vous savez qu'il y a du noir et du rouge sur le tableau. Et toi, tu es un chrétien. Tu es converti à Christ. Et quand tu es converti à Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais il vient habiter en toi, tu n'es même pas conscient de ça. Parce que le Saint-Esprit qui vient habiter en toi te donne d'être né de nouveau et tu es devenu un enfant de Dieu. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit est venu vivre en toi avec l'abondance de Dieu. Je prends cela pour te montrer quelque chose. Mais maintenant, toi, tu es en contact avec le Saint-Esprit. Tu es déposé là sur l'eau là. Tu es en contact avec le Saint-Esprit. Ça te permet de faire quelques exploits, petits exploits. Ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Tu parles en langue. Mais mon frère, on te dit que le Saint-Esprit est sur toi et en toi. Quand il est sur toi là, donc non, amenez mon image ici directement. Quand il est sur toi, et c'est pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'envoie pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libres les opprimés. Et tu te contentes de l'Esprit Saint sur toi. Ce Saint-Esprit qui est sur toi là t'a donné une puissance. C'est ces quelques gouttes là qui tombe. Et tu vas au dehors. Tu commences à évangéliser. Tu pries pour les malades. Tu chasses les démons. Et effectivement, tu es utile pour des gens. Les gars, tu les aides. Tu effaces leur ancienne vie. Et alors, tu peux aider les gens. Et les gens disent, ah, l'homme là a la puissance. C'est vrai. Jésus a dit dans Actes 1, 8, et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra. C'est vrai. Mais regarde ta vie, chrétien. 99% regarde ta vie. Quand tu as fini de chasser les démons, quand tu as fini de guérir les malades, regarde les frustrations que tu as toi-même à la maison quand tu es seul. Regarde le genre de vie que tu mènes au service. Regarde les compromis que tu fais régulièrement. Il y a la puissance dans ta vie. Les dons spirituels se manifestent. Tu aides les gens. Mais ta propre vie n'est pas remplie. Le Saint-Esprit ne contrôle pas ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne restes pas longtemps dans la présence de Dieu. Tu vas seulement quand tu veux aller prier pour les malades. Tu viens prier pour avoir l'onction. Quand tu veux faire les choses, tu viens prier pour avoir ceci ou cela. Mais mon frère, mais quand tu as fini, tu ne développes pas ta communion avec le Saint-Esprit. Alors ta vie est déposée quelque part. Au bout de quelques jours, il y a la sécheresse spirituelle. Et tu crois qu'il faut prier? Non. Parce que cette éponge-là n'est plus en contact avec l'eau du Saint-Esprit. Si on la met au dehors, l'atmosphère spirituelle, les critiques des gens, les diffamations des gens, les insultes des gens, les jalousies des gens vont commencer à dessécher ta vie. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés. Ils courent de groupe de prière en groupe de prière. Ils ne sont pas en contact, ils ne demeurent pas en contact avec lui. Ils ne restent pas longtemps ici. Ils ont une petite onction et ils se vantent avec ça. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les vies semblent chaudes. Mais eux-mêmes sont vides. Regarde les péchés. Tu n'arrives à dominer aucun péché. Des compromis en permanence. Il n'y a pas de joie. Quand quelqu'un te fait quelque chose, tu es rancunier. Comment un chrétien qui est rempli, la rancune est où? Dans quel endroit? Tu n'as qu'une vie naturelle. Tu es un chrétien qui vit naturellement. Et c'est ce qui fait les problèmes. Mais
là,
ce que je te dis aujourd'hui là, Christ en nous là, qu'est-ce qui se passe? Tu restes dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est venu sur toi. Et maintenant, en restant dans la communion avec le Saint-Esprit, cette éponge, si je la dépose ici, pour ne pas prendre votre temps, si je la dépose ici, dans une heure, elle sera où? Elle sera où? Au fond de l'eau. Oui ou non? Parce qu'elle est restée longtemps.
Les
gars, elle est restée longtemps. Mais pour qu'elle aille au fond de l'eau, au fur et à mesure qu'elle va au fond de l'eau, qu'est-ce qui se passe?
Elle
regarde les bulles. Il y a des choses, il y a de l'air qui est dans cette
éponge.
Donc l'eau, pour remplir l'éponge, va faire partir les bulles. Viens montrer les bulles. Viens voir. Regarde bien les bulles.
Voilà, faut pas pour
les bulles.
Les bulles.
Au fur et à mesure qu'il perd l'air, l'eau pénètre. Le Saint-Esprit contrôle. Et à un moment donné, si je l'avais laissé, on va trouver. Regardez. Comme il y a beaucoup d'air dans l'éponge là. Comme il y a beaucoup d'air, ça ne peut pas aller au fond. C'est pourquoi ta vie ne peut pas aller au fond. Ta vie chrétienne est remplie d'air. Ta vie chrétienne est remplie d'air. C'est cette terre-là qui te donne des convoitises, des jalousies. C'est cette terre-là qui donne plein de choses. Tu vas à l'église, mais quand tu viens à la maison, personne ne te reconnaît. Tu n'as pas changé. Mais en restant ici, regardez, l'éponge devient de plus en plus lourde. Cette éponge, elle est légère. Elle est lourde. Elle est lourde de quoi? Ce n'est pas sa propre vie. Ce n'est pas sa propre vie. C'est la vie de l'eau qui est dans l'éponge. C'est ça être Christ en nous. Ça c'est toi. Tu es faible. Tu es rempli d'air. Tu es rempli de beaucoup de choses. Tu guéris les malades. Tu chasses les démons. Mais regarde, ta femme dit, quelles sont les personnes tu es? Ton mari dit, quelles sont les femmes tu es? Au service, les gens disent, toi tu es quel chrétien? Vous voulez vous gâter le nom de Dieu? Parce que tu n'es pas dans plénitude. Les deux éponges, au départ, sont ont le même poids. Maintenant, cette éponge est plus lourde. Elle est plus lourde. Et c'est pourquoi il y a deux sortes de chrétiens. Des chrétiens légers et des chrétiens lourds. Parce qu'ils sont remplis. Regarde maintenant. Quand il est rempli, son but de faire quoi? Il dit, les fleuves d'eau vive vont couler. Maintenant, ce chrétien-là, quand on Quand on appuie ce chrétien là, rien de bon ne sort que l'air. Mais celui-ci là, quand on l'appuie, regarde, les fleuves d'eau commencent à couler. Les fleuves d'eau commencent à couler. La vie divine qui est dans cette réponse commence à se manifester. C'est ça la vie chrétienne. Il
n'y
a pas autre chose. Mon ami, où en es-tu ce soir? Tu es pasteur, hein? Je ne dis pas que tu n'es pas pasteur. Pasteur n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Pasteur, c'est un ministère. La vie chrétienne, c'est ta propre vie. Où en es-tu? Où en es-tu? Regarde! Tu ne restes pas longtemps. Une heure de temps, tu es parti. Tu es pressé. Tu seras une éponge tout le temps comme ça. À la rigueur, de temps en temps, tu seras comme ça. Tu vas sortir, aller. Mais quand tu reviens, tu es sec. Tu es sec. Christ en nous.
Christ en nous.
C'est ça, mon frère.
Il y a un babi.
Christ
coule. Robané, Robané, pidem.
Christ coule.
Christ autom.
Mon frère, ma soeur. C'est ça notre introduction ce soir. Regarde attentivement. S'il te plaît, regarde, sois honnête, regarde ta vie chrétienne. Sois honnête. Si Christ apparaît aujourd'hui devant toi, dans ta chambre seule, s'il te dit, mon enfant, quelle est ta vie là? Tu peux lui parler? Dans l'église, tu te compares à des gens. Il y a des gens qui sont pires que toi. On ne parle pas de ça. Si Christ apparaît tout de suite devant toi, s'arrête là.
C'est
mon enfant. Où est la vie de l'esprit en toi? Tu auras la bouche fermée.
Tu
vas pas dire que non, nos pasteurs ne croient. Il dit, tu es pasteur. C'est moi qui t'ai créé, c'est pas ton pasteur qui t'a créé. Quelle doctrine ça? C'est moi qui t'ai créé. N'oubliez pas, frère. Un jour, on va franchir l'éternité. On va apparaître devant lui. Il va se baser sur ce que je te dis là. Sur ce que je te dis là. Il ne se basera pas sur ce que ta dénomination dit. Christ n'a pas créé de dénomination. Il dit Christ en nous, l'espérant de la gloire. C'est pourquoi les chrétiens n'ayant pas. Ne voulant pas vivre cette vie de plénitude là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font beaucoup d'activités maintenant pour apaiser leur conscience. Les activités chrétiennes ne donnent rien, Dieu n'écrit rien au ciel. Il y a plein de choses que le monde fait et que vous faites. Si Dieu doit se baser sur ce que le monde fait là, le monde sera au paradis plus que les chrétiens. Jésus n'a pas dit.
Jésus dit
la main. Dans le livre de Jacques.
Jacques c'est
que la religion,
dit,
c'est s'occuper des veuves des orphelins.
Ça c'est
les actes. Mais quand il te parle,
il te parle
la vie à toi. Christ est-il en toi?
Christ il faut penser là.
Tout est là.
Bébé.
Mon ami.
Nous
et c'est ça qui fait que
plein
de pasteurs n'arrivent pas à vivre. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas.
Mais,
ah, pasteur, papa,
pasteur, baba,
j'ai des problèmes. Tu as des problèmes.
Yala.
Christ n'est pas là.
Yala. Yala.
Tu l'as négligé.
Faut pas nan Christ, il faut pour rien.
C'est pourquoi tu dors mal.
Yala, il faut quoi, pas non, faut.
C'est pourquoi tu n'as pas la paix.
Yala, il faut pas tard son la fée.
Sinon, comment 60 millions de martyrs à Rome, 60 millions de martyrs,
César,
Néron, a fait brûler Rome, 60 millions de personnes, des femmes enceintes, des bébés. Néron a dit, si vous renoncez à votre Jésus-là,
vous
êtes sauvé. Et tous ces martyrs chantaient, les femmes enceintes, on prenait des couteaux, on ouvrait leur ventre devant leur mari, renoncer la femme de son mari. Ne renonce pas. Christ est en nous.
Christ,
on prend les enfants. On les brûlait. On dit renoncer. La maman dit non. 60 millions.
Ne millions
pas lire les livres des martyrs. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la présence de Christ.
Il y a Christ Bilema.
On les brûlait sur les bûchers.
Am nyonde la rade sur.
Chaque personne qui était brûlée, il chantait des cantiques.
Ayine,
et vous, un petit problème au service. Vous êtes déjà dans la dépression 3 jours. Quelqu'un qui vous critique, vous ne pouvez plus le saluer. Si ces épreuves là viennent, vous allez faire quoi? Qui peut garder ça? C'est Christ en nous. C'est Christ en nous.
Il y a Christ en nous.
Regardez les rancunes dans les églises.
Yes, sur
le regardez les divisions dans le corps de Christ.
Yes, will Christ.
Regardez les amertumes.
Yes,
pourquoi?
Christ
est absent.
Kabewa.
Tout le monde veut l'onction.
Il va falloir
pour chasser les malades.
Et
il ne peut pas chasser leurs propres démons.
La bambing, si ne va pas t'indiquer.
Voici le vrai problème.
Adieu la meng meng
la. Ce n'est pas la révélation.
Bah, la
de Christ en nous.
Christ béton pour
de Christ en nous.
Christ béton pour
c'est tout le secret.
Il y a bonsoir l'enfant.
C'est le mystère des mystères.
Il y a bonsoir l'enfant.
Si ce que Paul dit.
Il y a de la Paul
il battu 39 coups.
Pas la nord pita la.
Jeté au faux.
En l'obat tu
il se lève il loue le Seigneur.
Taï qu'un père du
trahi par les faux frères.
Babi fatou
il continue ton chemin. Maltraité, il dit il rend grâce à Dieu. Et si ce n'est pas une vie extraordinaire, est-ce que Paul était un gars qui exagérait? Non,
Paul est né de
il dit ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi.
Mon frère, ma soeur, il y a 30 ans, quand Dieu m'a donné ce verset là, je l'ai écrit d'abord ici, ensuite je l'ai transféré là-bas. Ça fait 30 ans quand je parcours le monde, je demande à mes amis pasteurs, les grands pasteurs, je les demande, mais ça veut dire quoi? Quelqu'un dit oui, mais sinon c'est ça. Il dit non, attendez, quelque chose ne va pas. Regardons Hébreux 11, regardons ceux, on prenait les femmes là, on brûlait leurs enfants, mais ils ne disaient rien. Qu'est-ce qui a fait que ces gens là, qu'est-ce qui a fait que Dieu dit que toujours concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Pourquoi ils ont fait ça et les chrétiens d'aujourd'hui n'avaient pas fait?
Jusqu'à
ce que Dieu me dise, ils n'ont pas découvert Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est la faiblesse de mon peuple. Dis-leur ça. Partout où tu vas aller, dis-leur ça. Partout dans n'importe quel pays, si
ils
ne se préparent pas à ça, les problèmes qui vont venir dans le monde, beaucoup vont me renier. Si déjà les petits problèmes familiaux, l'homme et la femme déjà se trahissent, les enfants trahissent les parents, les parents trahissent, problème d'argent déjà, il
ne
peut pas souffrir, problème, il ne peut pas souffrir, les gens boudent, les gens disent on ne te salue pas. Si c'est ça là, ces petites épreuves là qui n'ont rien à voir, si déjà ça les amène, et moi j'ai dit à Paul qui me sépare de l'amour de Christ,
sera
la tribulation, sera-ce la nudité, sera-ce la faim, sera-ce les persécutions, selon ces choses là il dit mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. C'est pas un slogan, non, frères et sœurs, si je te raconte ma vie, les choses que j'ai traversées, mais parfois je me demande comment je vais m'en sortir, mais chaque fois je me rappelle d'une chose: celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dehors. Celui qui est en moi, Dieu ne sait pas, Seigneur, comment je vais m'en sortir. Oh Dieu, comprenez ce soir. Je veux que vous compreniez ce soir. Je ne suis pas venu pour vous tromper. Non, mon frère, quand Dieu m'a dit de venir enseigner, c'est pas pour tromper quelqu'un. Pourquoi je suis dans ma chambre, je ne sors pas? Pourquoi j'ai les parents, pourquoi je ne pars pas les voir? Je suis assis dans ma chambre, je verse des larmes. Oh Dieu, donne-moi un message, donne-moi une parole. Ton peuple périt, ils vont à l'église, ils croient qu'ils sont sauvés, mais il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose ne va pas dans leur vie. Oh Dieu, aide-nous Seigneur, je n'ai jamais gardé rancune contre quelqu'un. Les gens racontent des histoires, jamais, que Dieu me garde. Dieu est mon témoin, si je garde rancune, je ne verrai pas. Je ne suis pas bête pour garder rancune.
Je
suis incompris des gens.
N'est pas pour m'en voir, Balkaï.
Tu connais compris déjà.
N'est pas pour m'en voir.
Je ne cherche pas ma volonté. Non, mon ami.
Ayemzoa.
Écoute-moi.
Quel homme?
C'est ça.
Yama.
Et comprends ça.
Vous m'y avez voir.
Comprends ces vérités-là.
Vous me serez quand voir.
Comprends ces réalités-là.
Vous m'acquiez quand voir.
Et tu vas aller de l'avant.
Voilà qui
est
à ta
mais ce n'est pas fini.
La passe à main.
Si il est le canari, nous sommes les canaris.
Ton y a l'ordre.
Si nous sommes cette éponge-là.
Ton a éponge quand.
Troisième chose.
Vous m'attendez ça va.
Et dans 2 Corinthiens 2 verset 14.
Il connaît ton ami pile à
2 Corinthiens 2 14.
Il connaît ton ami pile à
qu'est-ce que la Bible nous dit, mon frère? La Bible nous parle encore.
Ils
disent dans ce passage-là que nous avons été placés là. Grâce soit rendue à Dieu. qui nous fait toujours triompher en Christ.
Pour nous n'embarquer qui est en tort de Christ pour voir.
Et qui répand en nous, par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Il répand en tout lieu. L'odeur de sa connaissance. Donc Dieu dit que maintenant nous sommes un flacon. Jésus a une odeur.
Jésus
a une Christ a une odeur.
Christ
a une il dit, tu dois répandre l'odeur. Mais l'odeur là est où? Dans un flacon. C'est ça Christ là.
Si
toi tu n'es pas conscient de ça, tu répands quelle odeur autour de toi? Autour
de toi.
Tu répands quelle odeur? Quelle odeur? Le problème est là.
Il
est là. Il dit répand l'odeur de Christ a une odeur.
Christ
a
la yogo.
L'odeur de joie.
Yassino yogo.
De paix.
La fin yogo.
Quand toi tu arrives quelque part,
quand
tout
yogo.
Le monde fuit.
Ne me fasse autant.
Pourquoi?
Moi yinga.
Écoute.
Quelle caille?
Répand. Pourquoi tu n'arrives pas à répandre?
Bon,
bien que Christ soit en toi.
Bah, clipe, bon,
tu n'arrives pas à répandre. Pourquoi?
Bon,
l'odeur de Christ.
Bon, Christ
il y a tout juste un petit couvercle.
Attends la ligne, il y a Billy.
C'est ce couvercle là.
Il y a l'inganga
qui t'empêche.
Une guitare de faux.
De répandre ce parfum qui
est. Da parfum
Christ est en toi.
Christ me faut pour un.
Tu l'as emprisonné.
Faut parler
par ce couvercle.
Né ligne.
Le couvercle là par rapport au flacon.
Ligne qui est en tout cas.
Il est 7 fois plus petit que le. Mais il contrôle tout le flacon.
Aya bilfu nora yo pouvez pas t'attouquer là yem paranora en soi.
Toi en tant qu'être humain tu contrôles toute la vie divine en toi.
La foi y'a ni ça la moins n'a vu ma femme.
Le Seigneur dit répand mon odeur. De paix de joie.
Y'a là fait la
à ceux qui meurent.
Dit,
à ceux qui sont vivants.
Vous
mais tu ne veux pas enlever ça.
Faut pas l'attendre.
Ça, ce sont les choses que Dieu te montre, dit mon enfant. Ça là. Pourquoi l'amertume qui est en toi?
Bon, c'est tout comme il faut pour
c'est péché caché là, tu les avoues pas.
Il y a une seule fois,
ça empêche. Tu as beau remuer. Le parfum ne sort pas.
Parfum pendant y'a.
Tu as beau mettre ça dans ta poche.
Bah,
le parfum ne sort pas.
Parfum pendant y'a.
On a beau prier sur ça là.
Bah,
l'homme de Dieu le plus puissant.
Bah,
a beau prier sur ça là. Le parfum ne sort pas.
Parfum pendant y'a.
C'est tu as emprisonné Christ.
Faut pas à Christ.
Aucun homme de Dieu n'a le pouvoir.
Il
n'y a que toi.
Y a faux, bah,
quelles sont ces choses? Qui empêche. C'est ce petit couvercle là.
Il y a ligne
ça fait de quoi
point.
Dans ta vie
point.
C'est la rébellion.
Il y a
ça fait de quoi
point.
C'est les mensonges.
Il y a
ça
le
fait
bello.
De quoi
point.
C'est tout ces choses là.
Et
point. Ça empêche
la dame,
de répandre l'odeur
de Christ.
Mais si tu te répands dans, aujourd'hui
Luna.
Si tu te répands si tu enlèves ce couvercle là posé mon frère
Mbabiga.
Ce n'est pas difficile
Pato.
Si tu enlèves ça posé regarde automatiquement va se passer. Quand tu appuies, l'odeur de Christ est répandue. 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 Cette vie en toi,
vous qui en avez fait pour un,
pourquoi tu l'emprisonnes?
Moi, je veux para.
Pourquoi tu l'emprisonnes?
Moi, je veux para d'un quatrième.
Des théories, on va faire, non. La vie divine en toi.
Moi, je veux un peu pour un.
Répand là. On
ne
te demande rien.
Répands
là. Enlève le couvercle de l'amertume,
surtout
de la rébellion, du mensonge, des escroqueries. Enlève ça. Et tu verras. C'est facile, mon frère. Regarde. L'odeur d'ici, toute l'odeur, ancienne odeur est partie. La nouvelle odeur est venue, c'est l'odeur de Christ. C'est ça qu'on te demande. Christ en toi.
Christ faut pourrer.
C'est ça, toi tu es le flacon.
Il y a un faux la touka.
Et tu contiens Christ.
Faut un zar Christ faut pourrer.
Tu contiens Christ.
Faut un tar Christ faut pourrer.
Mon frère, ma soeur.
Mais il peut clamer bravo.
Mais pourquoi les gens, ce passage, les gens ne prennent pas en considération. Ça dépend de la valeur que tu accordes.
A bien au niveau côté.
Dans le christianisme, on nous a dit, ah le Père, oh Dieu le Père est grand. Dans le christianisme, on a classé la divinité, on ne peut pas classer. Un troisième de classe, il n'a rien à voir avec le premier de la classe, le deuxième. Le Père n'est pas premier, Jésus deuxième, le Saint-Esprit troisième. Dans la mentalité des chrétiens, c'est ça. C'est ça qui fait des problèmes. Alors, s'il y a un premier est un premier, un deuxième est un deuxième, il n'est pas égal au premier, et le troisième n'est pas égal au deuxième. Dans votre mentalité, on vous a dit ça, la Trinité. Quelle Trinité? Les trois premiers, il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le troisième.
Premier, deuxième, troisième.
Ah, quand on ne dit pas le Père, ah, le grand Dieu Père, le Dieu illimité, le Dieu tout-puissant. Quand on vit à Jésus, ah, ça c'est le Fils, c'est le Sauveur. Quand on vit au Saint-Esprit, ton enthousiasme baisse. Qui a ressuscité Jésus? Qui a amené Jésus dans le sein de Marie? Jésus est venu par lui-même. Qui l'a amené? C'est lui qui a amené Jésus, là, toi tu le maltraites. Jésus a dit, si tu pèches contre le Père et contre lui, il n'y a pas de problème. Mais si tu blesses le Saint-Esprit, si tu attristes le Saint-Esprit, si tu te rebelles au Saint-Esprit, si tu pèches contre lui, tu ne seras ni pardonné ici, ni là-haut. Le Saint-Esprit n'est pas sauveur. Non.
Aïe.
Et c'est lui que tu négliges. C'est lui que tu négliges. Jésus est au ciel. Jésus n'est pas sur la terre. Le Père au ciel. C'est lui qui est sur la terre. C'est le Saint-Esprit. Le Seigneur de l'Église. Dieu l'a envoyé. Et c'est ça que les églises ont dit que le Saint-Esprit gâte l'Église. Mais c'est un péché. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne verront pas Dieu. Je vous préviens. Si vous parlez mal contre le Saint-Esprit, qui va t'enlever? Ce n'est pas Jésus.
Quand on a un cinq fois, pas Jésus, ouais.
Jésus est le sauveur. Jésus
est frère, ouais.
Quand il a fini, il dit, j'ai fini.
Avant ça, il dit, ouais.
Je vous enverrai quelqu'un d'autre comme moi, textuellement comme moi.
Il dit,
écoutez-le, obéissez à lui.
Et
il l'envoie. Et vous dites que le Saint-Esprit gâte l'église. Que le Saint-Esprit fait ça. Et vous allez vous en sortir.
Ah,
ok.
Aïe.
Ok.
Aïe, ouais.
Jouez avec ça. Le Saint-Esprit gâte l'église. Qui gâte l'église? Qui fait naître les gens? Qui t'a fait naître de nouveau? C'est Jésus. Jésus a fait qu'il faut réconcilier avec le Père. Jésus t'a réconcilié le Père.
Jésus passe à faux n'emba.
Il est sauveur. Il t'a dit clairement. Il vous est avantageux que je m'en
aille.
Il vous a dit que c'est avantageux pour nous que lui s'en
aille.
Et malgré ça, on dit Jésus. Pourquoi vous dites Jésus? C'est le Saint-Esprit qui est là. Pourquoi les gens ne considèrent pas le Saint-Esprit? Ils l'ont classé troisième. Un troisième
est
un troisième. N'importe qui aimerait travailler le premier et le deuxième, pas le troisième. Et c'est ça.
Je
te pose la question maintenant. Voici quelqu'un vient et me donne un billet de 500 francs. Il dit, tiens, 500 francs. C'est un bon billet. Ça peut m'aider à avoir un plat de riz. Je mets les 500 francs dans ma poche. Mais je vais aller n'importe qui avec les 500 francs. Les 500 francs, c'est de l'argent, mais ce n'est pas une grande valeur. Je n'ai pas peur quand quelqu'un s'approche de moi. Parce que même s'il enlève les 500 là, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas peur parce que 500 francs. Mais
là,
le lendemain, le monsieur m'appelle.
Il
dit, voilà, j'ai vu que vraiment c'est, tu es bien, je te donne 25 millions.
Il
te pose la question.
25
millions là.
Million
même si quelqu'un est à 3 mètres de toi, bah, il va t'approcher. Tu vas le laisser s'approcher. Hein? Quand tu marches, tu regardes quoi?
Hey.
Pourquoi? Parce qu'il y a en toi là a une grande valeur. Écoutez-moi maintenant. Quelle est la valeur que tu as accordée au Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit est un billet de 500 francs, c'est pourquoi tu pars faire n'importe quoi devant lui. C'est le Père et le Fils qui sont importants. Ton Saint-Esprit là, c'est combien de francs? Il vaut combien? Quelle est sa valeur? C'est pourquoi tu rentres n'importe où.
Il faut 15 ans. J'ai
un billet de 500 francs, je rentre au marché.
Je
rentre n'importe où. Parce que ce n'est pas important.
Mais
25 millions dans ma poche.
La million, puis
avant d'aller quelque part, fais attention. Si toi tu sais que le Saint-Esprit est Dieu lui-même, il est en toi. Et tu sais que là où tu vas là, tu n'aimes pas là-bas. Et tu pars. Quelque chose ne va pas. Tu es anormal.
Faut pas mieux.
Tu es un chrétien anormal.
Faut qu'il n'est pas mieux.
Ah mais oui.
Ndjawa.
Tu es chrétien normal.
Faut être chrétien, pas mis faut en date.
Même les chefs d'État de ce monde-là, on les amène n'importe où.
T'as le 15 yard là.
Hein?
Qui est là?
On les amène pas n'importe où.
Pas t'as le 15 yard là.
On fait attention.
Bande de gourds, ce n'est pas.
C'est pourquoi il y a la sécurité autour de lui.
Il y a des gourds de corps là-bas.
C'est pourquoi il y a le protocole pour le diriger.
Il y a des n'importe où, t'as qui n'importe.
Parce que il a n'importe où. Tout le pays est représenté par lui. Si on le touche, on touche à tout le pays. Le grand, grand Dieu descend du ciel. Saint-Esprit, il vient habiter en toi, vase de terre. Pour t'honorer, pour te dire, mon enfant, je te conduis maintenant. Je suis là. Je vais te diriger. Communie avec moi. Marche avec moi. Toi, tu le laisses, tu vas où, n'importe où, tu fais ce que tu veux, tu l'attristes, tu le blesses, ce sont les verbes qui sont en deux, tu lui manques, et tu veux quand tu as des problèmes, il n'a qu'à t'aider, il va t'aider comment? Quel est ce pasteur là qui peut t'aider alors que tu as attristé le Saint-Esprit? Quel est ce pasteur? Quel est le pasteur sans tête à vouloir prier pour les gens au lieu de leur dire, répands-toi?
Les pasteurs
prêchent, ils pêchent contre Dieu. Pas, vous voulez les 500 là? Il vient et dit, il n'est pas heureux. Mon ami, la Bible dit qu'on doit être heureux.
Là,
même dans les épreuves, on est heureux. Shadrach et Meshach Abed, ils n'ont pas le Saint-Esprit.
Ils sont
dans le feu. Daniel n'a pas le Saint-Esprit en lui. Il est dans le feu. Esther.
Esther,
tout le monde
n'a
pas le Saint-Esprit en eux.
Il
y avait le Saint-Esprit sur eux. Toi, tu as le Saint-Esprit en toi.
Pour
le revêtement du Saint-Esprit. Et tu te conduis comme ça. Réfléchis, mon frère. Réfléchissez ce soir. On dit Christ en vous. L'espérant de la gloire. Christ est en toi.
Christ
on ne voit aucune gloire.
Quelque
chose ne va pas. Tu l'as emprisonné.
Il faut parler de Zininga.
Homme de Dieu.
Oui, non,
femme de Dieu, pense à ça.
Oui, non, pas, attention, oui, les...
Ah, l'onction extérieure.
Ah, ying, panga.
Oui.
Je, ouais.
Et quand tu as fini.
Avant ça.
Et après.
L'année pour.
Combien d'hommes de Dieu guérissent les malades, chassent les démons, ouvrent les yeux des aveugles. Quand ils rentrent à l'hôtel, ils mettent des films pornographiques.
Oui,
un homme de Dieu qui met film pornographique, ça veut dire qu'il est malade intérieurement.
Oui, non,
il est malade.
Aya bada.
Il a besoin de chasser son propre démon. Samson est un homme puissant extrêmement, faible intérieurement. Le ciel regardait Samson sur les genoux de Dalila. Dieu a dit, fermez le ciel. Mon champion, mon libérateur. Regarde mon libérateur. Les anges ont dit à papa, mon Dieu. Regarde le champion que tu as suscité. Tu as donné cet homme-là à cette famille-là. Pour libérer Israël de son esclavage. Il est contrôlé par une simple femme. Dalila était la championne des Philistins. Samson était le champion de Dieu. Le champion de Dieu a été bloqué par des caresses d'une femme et l'a maîtrisé, apprivoisonné, dompté. Tout le ciel est fermé.
Tu
as dit fermé le ciel. Le ciel. Le champion. L'homme qui avait l'onction.
Il
transporte les portes.
Il
déchire les lions.
Il
prend des renards, il attache.
Cet
homme à qui Dieu a donné la puissance
est
en train d'être dompté par les mains d'une femme.
Il a par nous balancé
affaibli par les mains d'une femme.
Il a par nous comme ça.
Jusqu'à ce qu'il révèle le secret.
Hata vénère.
Quand il a révélé le secret, dès qu'on a coupé les cheveux, Dieu est parti. Il s'est levé avec deux yeux complètement. Chaque fois, c'est ça. Quand tu méprises le Saint-Esprit, c'est ça qui t'arrive. Pas physiquement. Après, tu sens que tu es faible. Tu n'as plus envie de prier. Tu n'as plus envie de lire la Bible. Tout devient difficile pour toi.
Mais
qu'est-ce que j'ai même? Peut-être que c'est les démons qui sont contre moi. C'est pas ça. Tu as oublié que le Saint-Esprit qui joue ce rôle dans ta vie tu l'as empêché de jouer ce rôle là.
Si son man tout mais il faut pour faut dire de pas mandé.
Quels sont les sept rôles du Saint-Esprit?
Il y a tout un beau celle-ci
son man. Jean 26, il enseigne toutes choses. Premier rôle.
Bibi tourne.
Celui qui est en toi, il enseigne ton enseignant.
Il y a bam la focal samba.
Deuxième rôle, il te rappelle toutes choses.
Tiens de faux boum fan.
Jean 14 26 encore.
Jean pile la pile yobé.
Troisième rôle, Jean 15 26.
Jean pile nous pile yobé.
Il témoigne de moi afin que tu témoignes.
Qui t'a cassé ton fond ton qui cassé?
Jean 16 maintenant.
Jean pile yobé.
Verset 7 8.
Verset 8.
Il convainc de péché, de jugement et de justice. Et ensuite, il vous conduira dans toute la vérité. Et après, il prend de ce qui est à moi et vous l'annonce. Sixième rôle, il vous annoncera les choses à venir. Septième rôle, il me glorifie. C'est pourquoi Christ en nous, l'espérant de la gloire. Christ, ce n'est pas le prénom de Jésus. Christ, loin de l'éternel. Christ, l'onction. Christ, la personne du Saint-Esprit en nous et l'espérant de la gloire. C'est pourquoi le septième rôle que le Saint-Esprit joue, il glorifie Jésus. Quel Saint-Esprit? Pas l'onction qui est au dehors, l'onction qui est au dedans. C'est ça son rôle. Quand tu ouvres la Bible, quand tu l'as respecté, il ouvre les Écritures, il te rappelle les choses, il t'enseigne. Mais si tu l'as triste, tu as beau ouvrir la Bible, c'est pourquoi tu n'as plus envie de lire la Bible. Tu fais 3 jours sans ouvrir la Bible. Tu fais 4 jours sans ouvrir la Bible. Ça veut dire que tu as attristé. Tu le sais. C'est pas découragement. Quel découragement? Quel découragement va t'empêcher de manger? Tu manges, non? Tu manges pas? Découragement t'a déjà empêché de manger. Si ça t'empêche de manger la parole de Dieu, c'est une nourriture aussi. C'est-à-dire que tu n'es pas d'accord avec celui qui te sert la nourriture. Le Saint-Esprit en toi, il est triste. Il est blessé. Il
ne
parle plus. Et c'est pourquoi tu cours maintenant. Quand tu vois les gens courir, aller chez les gens, ils ont des problèmes. Pourquoi? Ils ont des problèmes. Tu vois? Quelle est l'importance que tu accordes au Saint-Esprit? Ton Saint-Esprit, il a quelle valeur? Jésus disait, il ne faisait rien. Quand le Saint-Esprit dit faire ça, il fait. Paul dit c'est nous obéissons au Saint-Esprit. Les programmes que nous faisons là, la plupart des 98% ça vient de toi. Quand le programme est fini, tu es découragé et frustré.
Programme
un programme qui n'apporte pas une joie, c'est pas un programme qui vient
de
toi. Ça vient pas. Tu comprends? On va terminer en regardant une application. Quand le maître nous faisait la surface du carré, il fait toujours une application.
Normal, c'est pas du carré, man de même.
Comment l'enfant va faire son problème demain?
Il y a
la leçon.
Dans la leçon,
la leçon d'application.
La fonde man, tout
un prédicateur, c'est ça.
Quoi, mon mien?
Non, mais alléluia, Christ en vous l'espérant de la gloire.
Alléluia, frère.
Voyez, il va croire quoi? Tu veux qu'il croit quoi? On dit aux gens, quelqu'un, toi tu es maître nageur, tu es sur le à la rive de, tu es sur le bord de la rivière. Quelqu'un est en train de se noyer.
Il dit,
tiens ferme. Tu vas tenir l'eau là. C'est ça qu'on dit dans les églises. Tiens ferme. Tu vas tenir quoi? Mon frère, tiens. Quand les gens disent, moi,
demain,
quelqu'un est découragé, il dit, tiens ferme, il va tenir quoi?
Il va tenir.
Un langage religieux.
Assois-toi.
Tu as déjà vu un docteur, un malade vient devant lui, il dit au docteur, il dit au malade, tiens ferme.
D'abord,
le docteur va lui demander. Ça a commencé quoi? Quels sont les signes?
Comment
ça se manifeste?
Au
fur et à mesure qu'il décrit, le docteur voit déjà la maladie et il voit le médicament. Oui ou non? Quand il a fini, il dit, bon, ne t'inquiète pas. Et tout de suite, le malade fait quoi? Il sait qu'il y a une solution. Mais s'il dit ça au docteur, il regarde le docteur, il te dit, tiens ferme. Va à la maison, tiens ferme. Ça veut dire qu'il a compris que le docteur a dit qu'il va mourir. Oui ou non?
Hein? assez il est là, la paille au rond.
Bien faire, il va te dire, je vais parler à docteur. Mais si le docteur prescrit une ordonnance,
docteur il dit non, ordonnance.
Faisant ça là, Manon, dans 15 jours, viens, le type il sort sur le docteur content. Pourquoi? Parce que l'ordonnance du docteur est une solution.
Docteur, ordonnance, c'est une manraille là.
Faut arrêter de dire des choses aux gens qui ne marchent pas.
Bah, si il y a tourné, pas des
tiens ferme.
Il y a la quinquain.
Si quelqu'un te dit bien, hey, mon ami, donne-moi ce qui doit tenir ferme.
Là. Si tu veux quelqu'un
qui se noie, on dit tiens ferme, jette-le une bouée de sauvetage.
Le boumoum quoi,
c'est simple, non? Est-ce qu'il a besoin d'aller à l'école de sauvetage pour comprendre ça? Le gars est en train de se noyer. Tu envoies une chambre à remplir. Il attrape la chambre. Est-ce qu'il va plonger encore? C'est ça la vie chrétienne. C'est si simple.
Ce n'est
pas des théories. Fatiguez pas les gens à la théorie. Quelqu'un est en train de mourir. Il n'a qu'à tenir ferme. N'a tenu ferme sur quoi? Mon frère. Regardons deux rois chapitre
4.
Te donner une application d'une femme qui va nous montrer quelque chose. Deux rois 4 verset 8. Dans ce passage-là, la Bible nous dit ceci. Un jour, un homme de Dieu appelé Élisée. La Bible dit un jour. Un jour. Dis avec moi un jour. Il y a un jour dans ta vie. Il y a un jour dans ta. Il y avait ici dans cette ville-là une femme qui avait un grand problème. Elle attendait un jour. Et ce jour est arrivé. Et c'est pourquoi on dit un jour. Quand tu lis la Bible,
tu ne peux
pas ouvrir. Il commence à dire comme ça. Un jour, Élisée passait par Shunem. Il y avait là une femme de distinction qui lui plaisait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il s'est rendu chez elle pour manger. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non.
Aïe.
Non. Ça, c'est lecture biblique.
Ce
n'est pas méditation.
On
dit un jour. Arrête-toi un jour. C'est dit qu'il y a des jours. Il y a des jours mauvais. Il y a des bons jours. Il y a des jours de révélation. Il y a des jours. Donc un jour. Tu t'arrêtes, tu dis
ah.
Un jour. C'est pas fini. On dit un jour
Élisée.
On parle de quelqu'un
Élisée.
Tu ne sais pas ce que ça veut dire.
Faut pas m'y aller.
Qui est Élisée?
Élisée à Kansomenga.
C'est pas difficile.
Pas toi, ouais.
Cherche à savoir ce que ça veut dire. Élisée veut dire Dieu sauveur.
Élisée, tu es un ami à Fanda.
Ah. Un jour. Dieu sauveur.
Oui, Namia Fada.
Sauveur veut dire quoi?
Fada
Sozo.
Sozo.
Ça veut dire quoi? C'est pas pour aller au paradis.
Sozo
veut dire huit choses.
Oui, ma fille.
Veut dire délivrance. Si tu as besoin de délivrance, c'est toujours
Sozo.
Si tu as besoin de guérison,
Sozo.
Si tu as besoin de prospérité,
Sozo.
Si tu as besoin pour aller au ciel, Sozo. Tout est Sozo.
Oui, ma
Sozo. Oui, définition de Sozo.
On te
dit qu'un jour, le Dieu sauveur, son nom qu'il transporte là, quand Élisée rentre quelque part, quand on dit
Élisée,
on dit quoi? Dieu quoi? Sauveur. Quand tu lis la Bible, laisse. Et puis un jour, il dit quoi? Il passait. Troisième mot, passait. On n'a pas dit qu'il s'est arrêté. Il passait. Quand Jésus passait à Jéricho,
Jésus a pu Jéricho.
Qui l'a arrêté? Bartimée l'a arrêté.
Bartimée,
chaque fois que Dieu passe sur ton chemin, fais attention.
Man,
il passe sur ton chemin parce qu'il veut te rencontrer. Il veut te visiter. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Dieu passe toujours près de nous, à travers les hommes, à travers Élisée là. C'est Dieu qui venait dans
Shunem.
Dieu venait en Shunem parce que à l'époque, la seule personne qui transportait le Saint-Esprit s'appelait Élisée. Il transportait la gloire de Dieu, il transportait la puissance de Dieu. Et quand il rentre quelque part, Dieu rentre dans cet endroit là. Il rentre dans la ville de
Shunem.
Et mon frère, ma soeur, on revient encore sur le verset. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et il y avait là une femme de distinction. Une femme de qualité spirituelle. Une femme dont les antennes étaient levées, elle est à la recherche pour connecter avec les choses de Dieu. Elle n'est pas la seule personne à Sunem. Pour qu'on dise femme de distinction. On n'a pas dit femme bien habillée. On n'a pas dit femme djangobiste. Femme de distinction. Une femme de qualité. Une femme qui a le discernement. Une femme qui est en contact. Mais comme Dieu ne passait pas, donc elle ne peut pas aller sur la même longueur d'onde. Un jour qu'Élisée est passée, elle va opérer sur la même longueur d'onde que Élisée. Une femme de distinction le pressa d'accepter à manger. La femme l'a vu. Ça c'est impressionnant. Je suis en train de parler Christ en vous. Hein. Mais d'abord, Christ était où?
La Christ avait...
Au dehors.
Il est
dans l'Ancien Testament. Il était en train de passer.
Et
cette femme-là est assise chez elle. Elle a des problèmes. Il y a toutes sortes de problèmes. Dieu passe. Beaucoup de gens ont des problèmes. Ça
ne
résout pas. Beaucoup de gens ont des problèmes. Dans la même ville, il y avait beaucoup de gens qui étaient parents à la femme. Les gens ont vu Élisée passer. Mais elle était une femme de distinction. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invité l'homme de Dieu. Ça veut dire qu'elle veut quelque chose. Ce que l'homme de Dieu transporte là, puisqu'il s'appelle Dieu sauveur, elle veut le Dieu sauveur dans sa maison. Et nous tous, ce que nous avons fait, un jour nous avons vu quelqu'un passer, quelqu'un prêcher, quelqu'un qui est venu chez nous, qui nous a parlé du Dieu sauveur. Maintenant, on a commencé à l'inviter à venir chez nous. C'est pourquoi on dit, nous avons invité Jésus. J'ai invité Jésus dans ma vie. C'est ça. Elle a invité Élisée dans sa maison. Et elle a commencé à partager avec Élisée. Sa vie n'est pas encore scellée sur la présence de Dieu. Elle est en train de commencer une marche avec Dieu. La première chose, elle a mangé. Et nous, quand nous invitons Dieu, il vient, nous mangeons sa parole. Plus on mange sa parole, plus on va commencer à avoir des révélations. Elle a invité Élisée pour manger. Et quand elle mangeait avec Élisée, quand elle discutait avec Élisée, elle a commencé à découvrir le vrai caractère d'Élisée. Tout le monde sait que c'est un prophète. Mais elle a connu plus qu'un prophète. Ce n'est pas son onction qui intéressait la femme. C'est le caractère là qui intéresse. Le caractère d'Élisée a été révélé à la femme. Et alors la femme a décidé, elle veut quelque chose chez cet homme-là. Et elle a dit à cet homme-là, chaque fois que tu vas passer dans la ville, viens manger. Et effectivement, la Bible dit, toutes les fois qu'Élisée passait, quand tu invites Dieu, Dieu vient. Ne l'invite pas une seule fois. Tu dis, en 1950, j'ai invité Jésus dans ta vie. Et aujourd'hui, il est où? Il est dans l'arrière-cour. Tu l'as invité en 52, dans ta vie. La femme l'a invité tous les jours. Elle dit à l'homme là, qui tu passes là, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut préparer une demeure pour Élisée. Elle a vu que l'homme qui passe là, quand il passe, la maison dans le repos. La maison est dans la paix. La maison est dans la joie. Elle dit, ah, c'est elle qui parle d'abord. Elle n'a parlé à personne. La révélation est personnelle. Elle n'a rien dit à son mari. Elle n'a rien dit à ses serviteurs. Elle n'a rien dit à ses parents. La révélation est personnelle. Et quand elle est personnelle, tu la développes. Et au fur et à mesure, mais son mari n'était pas intéressé. Son mari n'a pas découvert dans la même maison. Il y a avait son mari. Il
n'était
pas intéressé. Dans la même maison, il y avait Marthe. Il y avait Lazare.
Lazare.
Il y avait Marie.
Marie la bébé.
Les trois. La seule personne qui était intéressée par Jésus était Marie. Marthe était occupée à la session domestique. Lazare l'a reçu. Lazare est parti se promener. C'est quand il était malade qu'on voit Lazare apparaître. Alors que la maison de Béthanie, il y avait Lazare, Marthe et Marie. C'est ça les chrétiens. Il y a trois sortes de chrétiens.
Ouais.
Les Lazare, ils sont intéressés seulement quand ils sont malades. Les Marthe qui veulent servir Dieu sans communier avec Dieu. Et les Marie qui disent la chose la plus importante, c'est de communier. Pour que le Saint-Esprit me révèle la parole. C'est la même chose ici. Le mari n'était pas intéressé. Personne n'était intéressé. Et sa révélation a commencé à grandir. Le verset suivant, s'il vous plaît. Elle dit à son mari. Ah. Pourquoi elle dit à son mari? Qu'est-ce qu'elle dit à son mari? Voici. Je sais. C'est-à-dire, j'ai expérimenté quelque chose. C'est ça.
Yare.
Cet homme-là. Je sais.
Ici,
ce n'est pas un savoir.
Pas non.
C'est une connaissance expérimentale.
Il y a minimum.
Que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Elle n'a pas dit prophète, ce n'est pas le ministère qui l'intéresse. Attention. Non. Elle n'a pas. Élisée n'a rien fait encore.
Élisée n'a pas mal fait.
Ne courez pas derrière l'onction des gens.
Cherchez
à savoir quel est leur caractère. Ok. Cherchez à savoir quel est leur caractère. Le type là, il vit comme un cochon, il a des miracles, et il pose sa main sur toi, il te transfère sa vie de cochon. La Bible dit n'imposez pas vite les mains sur les gens. C'est pas parce que quelqu'un fait des miracles qu'il a une vie correcte. Elle a regardé attentivement. Elle a examiné. Elle a écouté les paroles d'Élisée. Elle a regardé l'homme là. Elle est arrivée à la conclusion que l'homme là, c'est un saint homme de Dieu. Pas un saint homme, hein, mais un saint homme de
Dieu.
Un saint homme de Dieu. Elle dit à son mari. Maintenant, elle peut dire à son mari. C'est un saint homme de Dieu. Et son mari a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Elle va dire maintenant. Elle va faire quoi? Elle va maintenant pas inviter.
Bon, ça prend un bol.
Verset qui suit. Regardons le verset qui suit. Faisons une petite chambre haute. Avec des murs. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Laisse le verset tranquille. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut faire une demeure, elle veut faire de sa maison une demeure pour qui? Élisée représentait la parole, le Saint-Esprit et la gloire de Dieu.
Élisée,
la l'Ancien Testament, c'est Christ en nous. Tout ce que Élisée est là, sa nature de saint homme là. Et tout ce qu'il est,
là,
tout ce qu'il a là, la femme dit, on va faire une chambre haute. Elle n'a pas dit, on va faire une dépendance dans la cour. Non, elle n'a pas dit, on va faire une villa dans la cour. Elle dit, au-dessus de notre maison, nous allons élever le Saint-Esprit et la parole. Dans la chambre haute, nous allons élever Dieu. Il dit à son mari, la maison là, est-ce que les piliers peuvent tenir? Le mari a dit, il n'y a pas de problème. Il dit, mon mari, nous allons nous soumettre à la présence de Dieu. Et on va faire une chambre haute. Et quand Dieu sera en haut avec son serviteur, tout ce qu'il fait en haut là, descend sur nous. C'est ça, mon frère. C'est ça qu'on appelle la loi d'honneur, la loi d'hospitalité du Saint-Esprit.
Yala bom ti wa ko toro resi so ngana pokwe.
C'est ça.
Ya nyowa
cette loi que les gens ne pratiquent pas.
Donc quand on ne va pas les
parce qu'ils n'ont pas le discernement, ils invitent n'importe qui chez eux. Quand la personne s'en va, des troubles commencent dans leur maison. Quel est l'esprit qui est sur cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu là? Tu l'as invité chez toi. Toute ton atmosphère a été détruite. Elle est venue, elle a parlé mal à ton mari. Elle a dit à toi, à ton mari là, on dirait qu'il n'est pas fidèle beaucoup. Hein.
Voilà, il faut
qui commence. Celle-là, elle est un saint homme de Dieu. On va faire une chambre. Mais pas une chambre vide. Hein? Non. On va mettre là-bas quoi? Un lit. Le repos. Dieu veut avoir un repos chez toi. Le lit, c'est le symbole de repos. Dieu, quand il est comme ça, il n'est pas au repos. C'est chez toi qu'il est au repos. Un lit. Une table. Dieu veut la table là.
Oui, la table.
Dans le psaume 23, la table que Dieu place, laquelle il travaille contre les adversaires. Elle a mis ça. Ce n'est pas fini. Un siège. Elle a intronisé Dieu dans cette chambre haute.
Un
chandelier. Elle a laissé son esprit être la lampe de Dieu. On
n'a
pas le temps. On peut faire tout un séminaire sur ça. Tu comprends? Alors, quand il va venir, il va se retirer chez nous. Et c'est ça qu'il a fait. Et c'est ça que Dieu veut que tu fasses. Tu as invité Jésus dans ta vie. Mais tu l'as invité. Tu as fait quoi? Tu lui parles? Marthe et Marie ont reçu Jésus dans leur maison.
Il y a
un seul qui parlait à Jésus. Une seule qui communiait avec Jésus. C'est pourquoi, plus tard, quand Lazare est mort ressuscité, on voit la même Marie, comme elle était assise au pied de Jésus, elle a découvert le vrai problème de Jésus que personne n'a découvert. Après la résurrection de
Lazare,
quand Jésus est revenu en Béthanie encore, Marie et Marthe continuaient à faire quoi? À servir. Lazare était où? Assis avec Jésus, il a remis Jésus. Marie était où? Au pied de Jésus. Elle a découvert quoi? Que Jésus avait besoin qu'on l'oigne. Elle est venue avec un parfum. Elle a oint Jésus. Tout le monde a réagi négativement. Et Jésus lui a dit, mais cette femme-là, on va parler d'elle partout.
C'est
Lazare qui a bénéficié de la résurrection. Rien. Marthe, elle veut servir. La seule personne dans le repos, c'était
Marie.
Mon frère, ma soeur. La révélation te donne de savoir, de discerner. Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la volonté de Dieu? C'est ça Christ en nous. Il n'est pas venu, nous ne sommes pas des sites touristiques. Il
n'y
a pas de lieu de promenade en nous.
Christ
est venu en nous pour nous révéler le Père, son caractère. Et Élisée, en entrant chez la femme là,
Élisée qui est par hasard,
quand il est venu, il a vu qu'on lui a fait une maison. Dieu a mis ça, il a dit à Moïse,
on a mis à Moïse,
je vais habiter parmi mon peuple. Dans Exode 25, fais-moi un tabernacle. Dieu a toujours voulu habiter dans son peuple. Moïse a fait ça. Après, David a fait une tente. Après, Salomon a fait un temple. Chacun veut que Dieu habite quelque part. Ça, c'est les habitations faites de main d'homme. Dieu même est venu maintenant. Il s'est tabernaclé dans un homme appelé Jésus
Nazareth.
Et à partir de ce moment-là, il a dit que quiconque est sur cette terre-là, qui me reçoit là, doit devenir mon tabernacle. C'est pourquoi il dit aux Corinthiens, 8 fois, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Que Dieu habite en vous, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et dans 1 Corinthiens 1, il dit Corinthiens, vous avez tous les dons. Il ne vous manque aucun don spirituel. Vous avez les dons pour chasser les démons. Mais vous vivez comme des cochons. Parce que vous ne savez pas que Dieu est en vous. Les Corinthiens avaient tous les dons. Ils avaient les dons pour chasser les démons. Mais leur vie, il est à tel point que quelqu'un de vous, avec ses dons, a pris la femme de son père. Pour l'étonner. Comment pouvez-vous avoir tout ça? Christ est en vous. Vous ne savez pas que Christ est en vous. Vous n'avez pas la révélation que vous êtes le temple de Dieu. Que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que celui qui détruit ce temple sera détruit. Ne savez pas que vous avez été 1 Corinthiens 6, 19, vous avez été racheté à un grand prix. Que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Que votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. Qui a racheté tout cela. Voilà l'ignorance du peuple dit aujourd'hui.
C'est
seulement aller à l'église. Aller au culte. Mais le temple c'est qui? Là-bas c'est le temple de l'église locale. Là, ici là, c'est pas le temple de Dieu. Ça c'est la maison de l'église locale. C'est toi qui es le temple de Dieu. Entretiens le bien. Entretiens le bien. Christ habite en toi. Voici la faiblesse. La femme, quand elle a fait ça, alors Élisée dit, mais la femme là, elle a honoré Dieu. Pas moi, je suis le représentant de Dieu. La parole est avec moi. Le Saint-Esprit avec moi. La présence de Dieu avec moi. La gloire de Dieu avec moi. Elle vient de me recevoir dans sa maison. Et il y a l'espérance de la gloire maintenant. Alors il dit à son serviteur, appelle la femme là. On l'a appelée. Il dit, ah bon? Vous m'avez reçu comme ça. Vous avez découvert qui je suis, la femme. Vous savez ce que je transporte, la femme de l'homme. Il dit oui. Il dit ok. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Que voulez-vous que je fasse le roi? Elle dit non, juste la famille royale. Elle est partie. Élisée dit à Géasi. Elle a reconnu la présence de Dieu. Elle nous a mis dans sa maison. Il faut que la gloire de Dieu se manifeste. Quel est le vrai besoin de la femme là? Pas ses passions. Pas ses désirs. Quel est son vrai besoin? Élie et Géasi dit chef. Chaque fois qu'on vient ici, je n'ai jamais entendu un enfant crier. L'enfant est la gloire de sa famille. Élisée dit, ah bon, il n'y a pas d'enfant. Alors appelle-la. Elle vient à la porte. L'homme de Dieu, écoutez, qui transporte la présence de Dieu, ne prie pas longtemps. Il y a j'ai dit aux gens, pourquoi tu me cherches? Pourquoi tu es enceinte? Les gens s'ambient, mais elle est enceinte.
Mamie, la tara pour ouais.
Quand je parle aux gens, c'est ça. L'homme de Dieu n'a pas besoin d'aller prier. Tu transportes le Saint-Esprit à toi. Et chaque devant, chaque besoin, le Saint-Esprit agit. Si le Saint-Esprit n'agit pas, ça ne va pas. Élisée a dit, bon, madame.
Élisée, madame.
Bon, la gloire de Dieu va se manifester dans ta maison. L'année prochaine, à cette même époque-là, tu tiens un enfant. C'est ça l'espérance de la gloire. D'abord, elle a mis Christ dans sa maison. À travers
Élisée.
Et la gloire s'est manifestée. Et tu comprends? C'est tout ce que je vais développer cette semaine. Les soirs et les matins. Mon ami, il y a des choses. Si tu ne saisis pas, ta vie chrétienne est remplie de haut et de bas. Les gens disent non, que la vie chrétienne est remplie de montagnes. La vie chrétienne est linéaire. Quel est ce Dieu-là? Un Dieu dépressif comme ça? Demain, aujourd'hui dans la vallée, demain sur la montagne. Quand tu rencontres les chrétiens, mon frère, ça va. Je suis sur la montagne. Tu vas descendre dans la vallée. La vie chrétienne n'est pas sur les montagnes, des vallées. Ça, c'est de la tradition. Jésus a dit, ce n'est ni plus sur les montagnes, ni à Jérusalem. Dieu est quoi? Esprit. Et on l'adore en esprit. Hein? Dans la vallée, Dieu est là-bas, oui ou non? Sur la montagne, Dieu est là-bas, oui ou non? Dans le feu, Dieu est là-bas, oui ou non? Partout, Dieu est là, oui ou non? Alors, mon frère, ma soeur, Dieu n'est plus une affaire de lieu. Ce n'est pas une affaire d'église, de bâtiment. C'est une affaire d'Esprit Saint, mon frère. C'est une affaire où l'Esprit Saint est en toi. L'Esprit de gloire est en toi. Christ en toi. C'est l'espérance de la gloire. Christ en toi, mon frère. Christ en toi, ma soeur. C'est l'espérance de la gloire. Christ en toi. C'est la plénitude de la présence divine. Christ en toi. C'est le mystère de Dieu révélé. Christ en toi, c'est l'onction intérieure. Christ en toi. C'est tous les trésors de la sagesse et de la connaissance manifestée. Christ en toi, c'est l'amour, la joie, la paix. Christ en toi, frère, c'est cela. C'est ça que je vis. C'est ça que je vis. N'essaie pas de me décourager. Tu seras découragé de vouloir me décourager.
Il
n'y a rien de vantardise là-dedans.
Paul
a dit quoi? Ce n'est plus moi qui. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas un slogan.
Ce
n'est pas pour Paul. C'est pour tout chrétien. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en toi. Pourquoi tu te laisses décourager? Christ vit en toi. Mon frère, ma soeur, ferme ta Bible
simplement.
Crois ça. Oh Dieu, crois ça. Mon ami, crois ça. Accepte cette vérité-là. Et ça va, tu vas voir ta vie. Tes luttes depuis 20 ans, 25 ans. Tu luttes avec des choses cachées, des péchés cachés dans ta vie que ta femme même ne connaît pas, parce que tu ne veux pas que personne connaisse, alors que ces choses là sont réelles. Il y a des habitudes, mauvaises habitudes dans ta vie. Tu as lutté, tu as gêné, tu as prié, pourtant quand toi même tu pars prier pour les gens sont délivrés, mais toi même parce que tu n'as pas réalisé que c'est Christ en toi qui fait ces choses. Ce n'est pas la prière d'abord. Et sois conscient que Christ est en toi. Que la réalité divine est en toi. Et c'est pourquoi ce soir-là, mon frère, ma soeur, prends quelques secondes et réfléchis à Christ en toi. L'as-tu réellement accepté comme les Bibles, les termes bibliques le disent? Il dit, en Christ se trouve toute la plénitude de la divinité. Et ce Christ est en toi. Ce Christ-là, c'est le mystère de Dieu révélé. En qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En ce Christ, nous avons toute la plénitude. Réfléchis une minute. Est-ce que tu vas accepter de libérer ce Christ qui est emprisonné en toi? Ce ne sont pas les problèmes extérieurs qui te créent des problèmes. C'est ton intérieur qui te crée des problèmes. Non, mon ami. Si tu n'as pas expérimenté la mort en Christ, tout ce que les gens vont faire contre toi, tu vas les sentir et ça va te traumatiser. Mais si tu réalises ce soir la mort en Christ, la résurrection avec Christ et Christ qui habite en toi, alors tu vas découvrir une autre dimension de la vie chrétienne. Tu vas découvrir la réalité même de la vie chrétienne. Et tu vas savoir que les gens n'exagèrent pas. Qu'ils ne sont pas hypocrites, ils ne mentent pas. Qu'ils ne te trompent pas. C'est cette vie-là que des multitudes d'analphabètes vivent dans ce monde-là. Ils
ne
savent même pas lire. Mais ils ont cette vie divine en eux. C'est ça que dans les pays fermés, où l'évangile n'est pas prêché, c'est ce Christ en eux, c'est ça qu'ils vivent. C'est pourquoi malgré les persécutions, ils tiennent ferme. Mais ce soir-là, regarde-toi femme, regarde-toi mari, est-ce que tu as accepté que Christ vit en toi? Tout le problème est là. Ah, tu dis, mais pasteur, tu ne comprends pas. Ce n'est pas une question de comprendre. Je dis, le Christ qui supporte tout, qui croit tout,
un sacrifice,
qui est patient là.
Un
il sait que toi et moi, on n'est pas patient. Il sait qu'on ne peut pas tout supporter. Il le sait. C'est pourquoi il est venu vivre en toi. Pour lui-même. Prendre ces chocs là sur lui. Mais à condition que toi tu acceptes. Qu'il vit en toi par le Saint-Esprit. C'est ça, Christ là, c'est le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi. Alors, première chose, tu as méprisé le Saint-Esprit. Tu as critiqué le Saint-Esprit. Alors Dieu te donne l'occasion ce soir, au moment où tu as la tête baissée, de demander pardon. Dis Saint-Esprit, que, dis-lui que tu l'as méprisé. Tu l'as négligé. Tu ne l'as pas honoré comme tu le fais avec Jésus et le Père. Tu as cru que c'est une simple troisième personnalité de la divinité. Et qu'il trouble les gens, il trouble les gens. Mais c'est lui qui est en toi, c'est pas Jésus. Et c'est pourquoi tu n'es pas à l'aise avec lui. C'est pourquoi tu n'as pas la paix, tu cherches à compenser la présence du Saint-Esprit avec des choses, des désirs de ce monde-là. C'est pourquoi l'insatisfaction est là dans ton âme. Si ce soir, tu acceptes cette réalité, Christ en toi, alors, tu vas voir qu'un changement, même ce soir et demain matin, tu vas voir un changement notoire dans ta vie. N'aie pas peur. Satan dit que si tu acceptes ça, il va faire de toi un pasteur. C'est faux. Ce
ne
sont pas les pasteurs, c'est tout chrétien qui peut vivre cela. Satan est en train de parler à plusieurs personnes pour les faire croire que ce n'est pas vrai. Je peux t'attraper par la main, ce que Satan vient te dire là. Refuse cela maintenant. Satan, le menteur, est en train de te parler. C'est pas ton raisonnement, hein. C'est lui qui est en train de te parler. Il te donne la peur. À l'affaire du Saint-Esprit, il n'y a pas l'affaire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'y a pas l'affaire de Jésus. Il n'y a pas l'affaire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas un troisième Dieu. Il n'est pas un Dieu mineur. Il est Dieu. Pleinement Dieu. Accepte sa présence. Accueille sa présence. Honore sa présence. Dis-lui que dès maintenant, tu vas l'honorer. Que tu vas l'exalter. Que tu fais de lui le Seigneur. Car Jésus est le Seigneur du salut. Le Saint-Esprit est le Seigneur de ta vie. Il te vivifie. Il te conduit comme il a conduit Jésus. C'est lui qui a conduit Jésus. C'est lui qui a revêtu Jésus de sa puissance. Il veut le faire avec toi. Et tu auras une famille changée. Et tu verras que même ton mari qui semble être dur, là, les choses vont changer. Par toi, tu as changé. Et tu verras comment Dieu va poser sa main sur cet homme ou cette femme-là. Si toi, tu acceptes que le Saint-Esprit règne en toi. Si tu dis, Saint-Esprit, règne en moi. Saint-Esprit, règne en moi. Prends la première place. Désormais, conduis-moi. Dirige-moi. Je ne veux plus reculer. Je veux marcher avec toi. Règne en moi. Saint-Esprit, règne en moi. Maîtrise mon cœur. Au moment où le groupe musical entonne cela tout doucement, toi tu continues à prier. Tu continues à prier. Le Seigneur va faire quelque chose de puissant pour toi maintenant. Quand je vais venir pour prier pour toi, la présence de Dieu va se manifester. Et alors tu partiras. Tu verras des changements notoires dans ta vie. Le groupe musical va l'entonner tout doucement. Tout doucement, moi je continue à parler. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois béni, sois loué. Merci Seigneur. Continue à parler au cœur de ces hommes et ces femmes. Règne en moi. Tout doucement. Saint-Esprit. Règne. invite-le à régner en toi ce soir. Ce que je te dis, c'est la vérité. Ce n'est pas un message théorique. Tu fais beaucoup de choses, mais tu es frustré. Tu n'as pas la joie intérieure. Tu n'as pas la paix intérieure. Parfois, tu es découragé. Et même parfois, tu t'en prends à Dieu. Tu es fâché contre lui. Tout cela, parce que tu ne laisses pas le Saint-Esprit régner en toi. Tu ne laisses pas le Saint-Esprit. Demande-lui de régner en toi. Règne en toi. Reste toujours la tête baissée. Si tu connais ce cantique, tu le chantes. Règne en moi. Saint-Esprit, règne en moi encore.
Règne en moi.
Saint-Esprit.
Saint-Esprit.
Règne en moi.
Règne en moi.
En faisant quoi?
Mal moi.
Non, ne traduis pas. Si.
Maîtrise mon cœur.
Maîtrise mon cœur.
Viens régner, Seigneur.
Fais de lui le Seigneur ta vie.
Et ta volonté. Et que ta volonté.
Que ta volonté, c'est ça. Tu as peur de ça.
Sois faite à jamais. Sois faite à jamais.
Sa volonté n'est pas méchante, elle n'est pas dure. Satan t'a menti que la volonté de Dieu est difficile, c'est pas vrai. Parce qu'il est là pour t'aider. Il s'appelle l'aide, le consolateur. Maîtrise mon cœur, Dieu.
Maîtrise mon cœur.
Maîtrise mon cœur. Dis-lui cela, il va le faire.
Viens régner, Seigneur.
Et que
ta volonté. Et que ta volonté.
Ta volonté, elle est bonne. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite.
Sois fait à jamais.
Règne en moi.
Oui, règne en moi. Règne en moi.
Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Règne en moi.
Que tout le monde reste dans le silence maintenant. Le groupe musical, tout le monde reste la tête baissée. Trop de mensonges ont été dits sur le dos du Saint-Esprit.
Mourez.
Qu'il fait ceci,
qu'il
fait cela.
Tu
n'as pas vérifié.
Faut pas guesser.
Tu as écouté des prédicateurs qui ont menti sur le Saint-Esprit et ils se sont créés eux-mêmes des problèmes. Regarde toute personne qui parle mal du Saint-Esprit, regarde sa vie.
Il
n'y a aucun épanouissement. Regarde sa vie. Sois honnête. Ceux qui parlent mal du Saint-Esprit, regarde leur vie. Sois intelligent, mon frère. Sois intelligent, ma
soeur.
Regarde. Et ceux qui parlent du Saint-Esprit, dans la vérité, regarde la différence. Pourquoi écoutes-tu des gens qui sont dans l'échec? Le Saint-Esprit est celui à qui Jésus a confié l'église, pas à un pasteur. Il n'a pas confié l'église à un pasteur. Il a confié l'église au Saint-Esprit. Il dit, il vous conduira. Il vous dirigera. Le pasteur ne peut pas diriger une église. Aucun pasteur ne connaît ta vie. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs du cœur du Père. Il connaît les pensées du Père. Et il connaît tes pensées. C'est lui qui travaille entre toi et le Père aujourd'hui. Jésus a travaillé entre le Père et toi pour te sauver. Mais aujourd'hui, pour te diriger, c'est le Saint-Esprit qui joue ce rôle-là. C'est lui qui te conduit dans la volonté du Père. Et si toi, tu ne le connais pas, tu le méprises, tu le négliges, comment vas-tu négliger ton conducteur? Pourtant, quand ton chauffeur te conduit, tu fais tout que le chauffeur soit bien. Parce que tu sais que ta vie dépend du chauffeur. S'il doit dormir, tu le laisses dormir. S'il doit manger, tu le fais manger. Pour ta propre sécurité. Et le Saint-Esprit est ton conducteur. Mais tu ne veux pas le voir. Tu le critiques. Comment veux-tu parvenir à bon port? Réfléchis toi-même. Tu es logique. Réfléchis. Comment tu vas arriver à bon port? C'est lui qui connaît le chemin de la vie. Il connaît le chemin du ciel. Jésus, comment tu vas rejoindre Jésus au ciel? Si tu n'as pas de guide, Jésus est au ciel. Tu ne connais pas le chemin du ciel. C'est le Saint-Esprit qui le connaît. Comment vas-tu arriver au ciel si tu refuses que le Saint-Esprit dirige ta vie? Regarde comment d'erreur tu as fait. Regarde comment tu es malheureux. Regarde comment tu es triste. Tu es abattu. Oh Seigneur, aide ton peuple. C'est parce que les gens leur ont dit que le Saint-Esprit gâte. Refuse ces mensonges. Refuse ça. Le Saint-Esprit est doux. Il est patient. Il est amour. Car c'est lui qui répand l'amour dans ton cœur. Discrètement, mets ta main sur ton cœur. Que chacun ait la tête baissée. Que personne ne regarde, ni la femme regarde son mari, ni le mari regarde sa femme. Mets ta main sur ton cœur. Fais-le discrètement. Saint-Esprit, ce soir, nous avons réalisé que nous t'avons offensé. Nous avons écouté les mensonges des êtres humains qui ne t'ont jamais connu, mais qui ont menti sur toi en disant des faussetés sur toi. Et sans vérifier, nous avons accepté ces mensonges. Ce soir, nous nous repentons pour ces mensonges-là parce que nous t'avons offensé, nous t'avons blessé, nous t'avons attristé. Mais ce soir, nous revenons à toi afin que dans ta miséricorde tu nous éclaires, car tu es la lumière de Christ qui est venu habiter en nous. Tu nous ramènes au Père afin que nous n'errons plus dans les sentiers que l'ennemi nous a tracés devant nous. Esprit de grâce, Esprit de vérité, Esprit de vie, comment pouvons-nous vivre sans toi qui es l'esprit de vie, sans toi qui es la vérité? Jésus est la vérité qui est venue sur terre, mais maintenant l'esprit de vérité c'est toi, l'esprit de vie c'est toi, l'esprit de résurrection c'est toi, l'esprit de puissance c'est toi, l'esprit de guérison c'est toi. Ô Saint-Esprit, pardonne toutes ces iniquités et maintenant remplis nos cœurs de ce merveilleux amour, l'amour qui pardonne, l'amour qui est patient, l'amour qui excuse tout, l'amour qui n'est pas soupçonneux. Oh, remplis les cœurs de ton peuple maintenant. Je crois que tu le fais. Saint-Esprit, maintenant n'interpelle plus, je parle à lui directement. Saint-Esprit, je suis venu leur parler de ce que tu fais dans leur vie. Plusieurs t'ont emprisonné par peur, Parce qu'on a dit que s'ils écoutent le Saint-Esprit, il va les envoyer en Afghanistan. Ils seront missionnaires dans des endroits où ils vont mourir du mensonge. Saint-Esprit, ce soir, maintenant, que la paix divine qui surpasse toute intelligence remplisse leur cœur, remplisse leur âme. Que ces âmes abattues, ces âmes affligées soient guéries maintenant. Que maintenant, la présence douce, non, reste tranquille, ne bouge pas beaucoup, mon frère, ne laisse pas les émotions. Que la présence douce du Saint-Esprit enveloppe leur cœur. Ceux qui étaient déprimés, dépressifs, blessés, que l'amour divin les remplisse maintenant. Que les liens d'amertume, de haine soient détruits maintenant, Saint-Esprit. Manifeste ta présence dans ces cœurs. Maintenant, recevez. Reçois maintenant la grâce de Dieu. Reçois maintenant cette présence divine. Le souffle de Dieu va amener cette présence dans ta vie tout doucement. Reçois maintenant. Ton cœur est libéré. Ton âme souffrante est libérée. Ton cœur blessé, oui. Il passe dans les rangs maintenant. Il passe dans les rangs comme une chaleur en toi qui descend dans tes pieds. Une chaleur qui t'enveloppe. Une fraîcheur qui rentre dans ton cœur. Regarde, cette tête qui était comme pressée. Maintenant, ta tête est libérée comme ton cerveau. Brusquement, ton corps qui était lourd est libéré. Regarde cette douleur dans ton bas de dos qui ne partait pas. Cette migraine. Maintenant, s'en va. Le Saint-Esprit agit maintenant. Cet problème de genou. Quand tu te lèves le matin, ma soeur, quand tu te lèves le matin, tu as une cinquantaine d'années. Quand tu te lèves le matin, tes pieds sont lourds. Pose tes mains sur tes genoux. Le Saint-Esprit apporte le baume de guérison dans tes genoux maintenant. Cette ulcère, quand tu manges quelque chose, alors ça brûle, tu ne peux pas. Pose ta main sur ton ventre. Le Saint-Esprit, l'esprit de puissance et de résurrection, agit maintenant. Cette hypertension qui n'en finit point. C'est vrai que les médicaments t'aident beaucoup. Mais regarde, maintenant, le Saint-Esprit fait un attouchement pour apporter totalement un renouvellement. Crois cela simplement ce soir. Merci Saint-Esprit, parce que tu agis dans ces cœurs. Dans ses poumons, dans ses bronches, tu restaures, même ceux qui sont à la télévision, ceux qui sont dans le monde, qui nous suivent actuellement en Amérique, partout dans le monde, en France, partout, tu les touches et tu les restaures. Merci, parce que tu le fais maintenant, que toute la gloire soit au nom de Jésus. Amen. On va arrêter là ce soir, parce qu'il est déjà tard. Pour beaucoup de gens, Crois ce premier message d'introduction.
Crois
ce premier message d'introduction. Et toi qui es venu parmi nous, on va terminer par là. Tu ne connais pas ce Jésus. Tu ne connais pas ce Jésus où tu te trouves maintenant. À la télévision ou dans ces salles ou au dehors. Tu
ne
connais pas Jésus. Lève ta main pour dire que tu veux recevoir ce Jésus ce soir. Là où tu es partout maintenant. Lève ta main simplement dans cette salle-là. Si tu es là, voici, plusieurs ont levé la main. À l'extérieur, des gens ont levé la main. Même à la télévision. Mettez votre main sur votre cœur et dites avec moi. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui est mort pour moi. Tu as pris tous mes péchés et par ton sang tu m'as lavé et par ta mort tu m'as réconcilié avec le Père. Maintenant, par ta résurrection tu m'as justifié. Je crois dans mon cœur que non seulement tu es mon sauveur, je confesse par ma bouche que tu es Seigneur. Et maintenant même, je suis justifié. Et le Saint-Esprit me fait naître de nouveau dans le royaume des cieux. Maintenant même, je reçois une vie nouvelle. Et le Saint-Esprit me donne un esprit nouveau, un cœur nouveau. Et maintenant, je suis un enfant de Dieu, participant de la nature divine. Et maintenant, je fais partie du royaume des cieux et Dieu est mon Père. Merci pour cette grâce-là, dans le nom de Jésus.
Amen.
Acclamez ses frères et ses sœurs.